Cette émission vous est présentée avec la somptueuse participation de Nicolas Tudy, Michael Rizzo, Nicolas Bello, Éric Truffaz, Dimitri Meunier, William Hardy, Valérian Mar, Fabrice Dosias, Émilien Éloi et Thierry Pau. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et pour m'accompagner aujourd'hui pour cet épisode un petit peu spécial quand même parce qu'on a des choses à célébrer, c'est le camarade Jérôme alias Genma qui nous revient après l'épisode spécial sécurité, mais cette fois-ci pour pas faire un épisode normal ou pour parler de l'actu de l'industrie tech. Comment ça va, Genma?
Ça va, ça va. Donc bonjour tout le monde, bonjour aux patriotes.
Ouais, aussi. on parlera en milieu d'émission donc de l'aspect administratif de tout ça, des patriotes de la soirée, du sondage, de petites annonces de mon côté aussi. Donc salut aux patriotes et salut à tous les auditeurs bien sûr. Jérôme était là pour la soirée qu'on a fait, la rencontre qu'on a fait samedi avec il y avait une soixantaine de personnes, c'était très cool.
Tout à fait. Puis bah je passe un petit bonjour spécial à Guillaume de Statosphère, qui avec qui on a longuement discuté. C'était très sympa. Puis bah tous les autres, donc j'ai pas forcément retenu le pseudo. Il y a eu quelques mentions sur Twitter. Donc bonjour à tous et à toutes.
Oui, c'était vraiment sympa. C'est vrai que Guillaume m'a dit qu'il a passé de longs moments à discuter avec toi, que c'était hyper intéressant. Et d'ailleurs, Guillaume nous a concocté quelques résultats pour le sondage qu'il a analysé très gentiment. Donc voilà, on va vous en reparler dans un moment. Mais pour le moment, lançons-nous avec les infos importantes à retenir. On va vous parler de YouTube Red, l'offre payante de YouTube. On va vous parler aussi des amendements pour la loi sur la neutralité du net qui a été votée en Europe. Il y a des choses qui, selon certains, sont assez dangereuses. On va vous expliquer tout ça. Et puis, on aura ensuite les news et rumeurs, comme d'habitude. Mais donc, on commence avec YouTube Red. Qu'est-ce que c'est donc que ça ? Une option payante pour YouTube. Première réaction comme ça en quelques mots. Payer pour YouTube, Jérôme, qu'est-ce qui se dit ?
Alors déjà, je suis pas trop utilisateur de YouTube parce que c'est le souci, ça fait partie de ce qu'on appelle les fameux GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, avec un côté centralisation du net. Donc je suis pas forcément pro YouTube au départ, même si il m'arrive de regarder des choses dessus. Et le fait d'aller payer après spécifiquement pour revoir du contenu YouTube, personnellement je serais pas client. Par contre, je comprends la démarche, donc on peut discuter en fait de la problématique qu'elle y est derrière.
Mais en fait, il y a un truc qui est intéressant dans cette approche de YouTube, c'est que finalement, la raison pour laquelle ils motiveraient les gens à payer, il y en a plusieurs choses qu'ils offriraient, et on va les détailler, mais l'une des choses importantes, c'est que ça enlèverait la pub. Et a priori, toi qui apprécies la vie privée, le fait de ne plus avoir de pub, bon, en même temps, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas traquer les trucs, mais au moins, il y aura plus les pubs. Est-ce que ça te plairait pas, ça ?
Oui, là, c'est vrai que ça résout une partie de la problématique en termes de tracking publicitaire. C'est vrai que, comment dire, pourquoi YouTube vient lancer une offre payante, c'est que tout le monde maintenant, ou bon, beaucoup d'utilisateurs ont un adblock qui va bloquer les publicités sur YouTube, et donc ça fait une baisse de revenus pour YouTube, et comment dire, pour un, comment dire. Et par conséquence,
gens,
pour par conséquence, bah les youtubeurs gagnent un peu moins d'argent aussi. Et donc, et des fois, c'est vrai qu'il y a des youtubeurs, on se dit, bah j'aimerais bien les soutenir ou autre. Et le revenu publicitaire qu'on peut générer, est important pour eux quelque part.
Oui, bien sûr.
Par exemple, moi, je sais que j'utilise YouTube via le Tor Browser, mais je laisse tourner les pubs. Or c'est marrant parce que ça fait voir des pubs de différents pays. Donc j'ai les avantages de YouTube sans les inconvénients au sens publicitaire où je ne suis pas traqué vu que ça passe par Tor.
Oui, alors démarche, pour ceux qui Pour ceux qui ne connaissent pas, Tor, c'est un réseau qui est décentralisé, complètement décentralisé, par lequel on peut passer, qui fait une sorte de tunnel pour aller visiter différents sites, et on passe par plein de pays différents. Tor, ça veut dire The Onion Browser, qui veut dire le navigateur oignon, parce qu'il y a plein de couches, comme un oignon. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc c'est un réseau plus anonymisant que si on passe par un navigateur classique. Et Tor, c'est T-O-R, donc. Mais effectivement, donc tu vois des pubs de différents pays, toi, puisque ça passe par différents pays.
Oui, et c'est surtout, comment dire, après, pour pas, comment dire... Après, c'est toujours pareil, c'est un équilibre à trouver entre j'utilise Tor et je mobilise de la bande passante pour aller sur YouTube, et, comment dire, je ne vais pas regarder les vidéos YouTube. Donc, c'est je fais pas de la vidéo toute la journée, c'est vraiment pour des publicités spécifiques qui sont sur YouTube.
Par exemple, des vidéos spécifiques, très bon. Ouais.
Oui, c'est ça. Il y a des très bons reportages sur Snowden ou autre. Et donc, ça permet d'aller regarder ces vidéos en conservant une partie vie privée. Donc, et je laisse la publicité. Comme ça, on peut espérer qu'il y ait un revenu, quelques dixièmes de centimes de je sais pas trop, hein, c'est qui iront, à la personne qui a mis la vidéo en ligne.
Donc, toi, après, c'est vrai que t'as. Oui, pardon, vas-y.
Oui. Après, le côté payé pour YouTube. Je pense qu'on va l'aborder, mais on paye pour Netflix, après on va payer pour YouTube, peut-être que Dailymotion va s'y mettre. Ça soulève aussi un souci, c'est que, comment dire, pour combien de services comme ça on va payer? Je pense que c'est ça la problématique sous-jacente.
Moi, je pense que le premier, c'est le rendez-vous tech, déjà. Hein, voilà,
oui,
ça, c'est
fait,
important.
Oui, ça, j'allais...
Et puis après... non, mais bon, c'est vrai qu'on plaisante. C'est une question qui peut être importante. Mais je pense que ça va plaire aux gens qui utilisent beaucoup YouTube. C'est pas forcément tout le monde. On n'a même pas dit le prix. C'est 10 $, enfin 9,90 $ par mois. Ça a commencé là, aux États-Unis. Ça va sans doute arriver dans les autres pays relativement rapidement. Mais pour vous convaincre... Il n'y a pas que le fait d'enlever les pubs. C'est un aspect effectivement important. Si les pubs ne vous plaisent pas et que vous voulez soutenir les productions, les producteurs dont vous appréciez les vidéos, il y a bien sûr cette solution qui est maintenant offerte par YouTube. Il était important qu'ils l'offrent. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont disponibles. En fait, ça inclut Google Play Music. Donc, si vous êtes déjà utilisateur de Google Play Music, eh ben, vous pouvez bénéficier de ce service. Ça va aussi... ils avaient longtemps joué avec l'idée d'avoir un service musique spécifique sur YouTube. Visiblement, ils auraient abandonné l'idée. C'est Google Play Music et YouTube qui sont ensemble pour 10 $. Et en plus, ça permet... un petit peu artificiellement d'enlever la limite qui empêchait de lire les vidéos en tâche de fond sur les appareils mobiles, bien sûr on pense aux appareils aux téléphones. Donc on peut avec cet abonnement tout à fait se faire une playlist de musique, éteindre le téléphone et continuer à écouter sans avoir la vidéo qui joue derrière. Donc ça peut transmettre uniquement l'audio. Donc c'est une sorte de solution intermédiaire pour avoir YouTube et la musique. Ils ont aussi fait un deal avec certains créateurs de contenu. On pense à PewDiePie qui est le créateur de contenu le plus suivi de tout YouTube et donc du monde entier. Il a, je sais pas combien il est, mais peut-être 40 ou 50 millions d'abonnés. C'est beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles assez jeunes. Donc, lui, bien sûr, ça change pas grand chose pour lui, mais parce que il a suffisamment d'argent, c'est celui qui est le mieux payé, mais il a fait un petit article expliquant que ça pouvait faire souffrir, l'utilisation d'Adblock pouvait faire souffrir des chaînes plus modestes, et donc si on ajoute l'absence de pub et le fait d'utiliser en tâche de fond YouTube avec l'application YouTube de base, et le fait d'avoir les avantages de la musique, et le fait d'avoir Google Music tout court, Google Play Music, ça peut finir par convaincre certaines personnes, je pense. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Oh mon Dieu, mais 10 $ ou 10 euros, on imagine que ça sera par mois. Mais t'es fou, c'est beaucoup trop cher juste pour YouTube. » Moi, je crois que quand ça va arriver, je risque de payer Pourquoi? Parce que j'utilise énormément YouTube pour des trucs hyper intéressants. D'ailleurs, c'est pas que des, il y a beaucoup de jeux vidéo, par exemple, mais je parle de temps en temps de la chaîne Crash Course qui fait des cours, des séries de cours sur l'anatomie, la biologie, l'exploration de l'espace, l'économie, la politique. Et c'est des petites vidéos de 10 minutes hyper bien faites par des gens hyper intelligents et des profs et des chercheurs. Et c'est des séries, donc bref, ça c'est une des séries, il y en a d'autres, il y a PBS Spacetime dont j'ai beaucoup parlé, etc. Donc il y a suffisamment de contenu pour moi pour que ça me plaise. Et peut-être qu'à terme, ils feront un tarif dégressif, genre vous abonnez pour un an, ça ne vous coûte que, entre guillemets, je sais pas, 70 euros ou un truc comme ça sera peut-être un peu plus intéressant, mais ils commencent avec la version la plus chère, on verra s'ils réduiront ensuite. Est-ce que tous ces ajouts, ça finit par te convaincre, ou, bon, toi, t'es pas très utilisateur de YouTube, donc forcément, ça te parle pas. Autour de toi, est-ce qu'il y aurait des gens qui, à ton avis, seraient convaincus?
Oui, je pense que, comment dire, les personnes qui sont plus geeks et pour qui, comment dire, YouTube est un outil majeur d'information, c'est presque de la catch-up TV en fait. C'est les gens ne regardent plus la télé, ils regardent YouTube. D'ailleurs, bah, on retrouve le même vocabulaire. On parle de chaîne, voilà, auquel on s'abonne, et donc c'est un peu, comment dire, c'est une nouvelle télé YouTube. Et le côté de payer. Objectivement, c'est vrai que c'est intéressant parce que on peut imaginer par exemple des formules un peu premium pour certaines chaînes en partenariat avec YouTube vont proposer par exemple des making of ou du contenu à valeur ajoutée, et comme ça c'est comment dire ça serait un peu comme quand on est Patreon pour le rendez-vous tech. Ça, c'est un bon exemple. C'est d'un côté, on a un contenu ou si on est comment dire Vic pour l'apéro du Capitaine, c'est on a le contenu qui reste gratuit. Donc le contenu mainstream, et à côté, on a en fait une plus-value à payer.
Et donc, pardon, vas-y, fini.
Oui, et ça serait intéressant ça, parce que, comment dire, on a certaines chaînes, et on est YouTube Premium, donc c'est si on a l'abonnement Red, il y a une partie de notre abonnement, par exemple, on dit, voilà, je veux, sur les $10, j'ai 3 abonnements que je considère comme Red, auxquels je vais avoir des vidéos en plus. Et YouTube reverserait en fait une partie des bénéfices selon ces 3 chaînes. Et ça, c'est un bon modèle économique, je pense.
Mais ça, je crois pas que c'est comme ça que ça va marcher. Ça va marcher avec.
C'est pas comme ça à l'heure actuelle, ouais.
Ouais, ça va marcher avec les vidéos qu'on a vues et eux, en fait, le temps de visionnage. Et eux, ils vont faire leur sauce. D'ailleurs, ça a nécessité que tout le monde accepte les nouvelles conditions d'utilisation. Ça fait des petites vagues, des petits remous que moi, j'avoue que je comprends pas trop parce qu'il est évident que YouTube, qui va autoriser cette chose-là, ils vont pas se dire, bah, les gens qui payent, il y a certaines vidéos qui vont pas être disponibles sans pub parce que les utilisateurs ne veulent pas accepter les nouvelles conditions d'utilisation qui incluent les utilisateurs abonnés. Il est évident que c'est une expérience utilisateur qui est lamentable, donc ils vont pas faire ça comme ça. Il faut que tout le monde accepte les nouvelles règles du jeu. Mais moi, je crois que la comparaison que t'as fait aux services comme au truc comme le rendez-vous, enfin comme les podcasts ou d'autres trucs de ce genre-là où on peut payer et on peut ne pas payer, c'est que c'est très cohérent parce qu'il y a des gens qui vont payer et des gens qui vont pas payer, et c'est normal, il y a sans doute une majorité de gens qui vont pas payer, mais par contre les gens qui vont payer seront les gens les plus intéressés par ce type de service, le plus intéressés par le contenu créé par les créateurs de contenu, et accessoirement, ils vont très certainement avoir une valeur pour ces gens qui créent du contenu beaucoup plus élevée, parce que on le sait, la pub, enfin, avec $10, ça correspond à, je sais pas, 10 000 vidéos regardées, quoi. Donc, évidemment, jamais personne ne va faire 10 000 vidéos regardées dans le mois. Donc, évidemment, ça sera plus intéressant pour les gens pour les créateurs de contenu, un abonné payant sera plus intéressant qu'un abonné non payant. Mais ça veut pas dire que tout le monde va s'abonner. Et ça, c'est évident. Il y a plein de gens qui vont pas s'abonner. Et pour se dire, l'accumulation des services qui commencent à se faire sentir, c'est la question que tu posais au début, elle est tout à fait pertinente. Moi, je crois que c'est très simple là encore, et on en parlait lors de notre rencontre samedi il y a 2 jours. Il y a des gens qui me posaient la question et c'était « Ah, mais s'il faut s'abonner à tout, ça va être infernal. » Bah, bien sûr que non, on va pas s'abonner à tout. C'est clair, il va y avoir 2, 3, 4 services auxquels on va s'abonner, et puis ça va finir par coûter, je sais pas moi, 10, 20, 30 dollars ou euros par mois. Mais si ça constitue une bonne partie de notre « entertainment », entre guillemets, entre, je sais pas moi, YouTube, Netflix, et moi j'ai quelques émissions que je soutiens sur Patreon, j'en ai pour une trentaine de dollars par mois… Oh, ça fait quoi et on va dire un abonnement, enfin même pas besoin d'un abonnement de musique parce qu'en l'occurrence Google Play Music est inclus, donc cinquantaine de dollars ou d'euros par mois. Et moi j'ai plus ni le câble, ni la télé par abonnement, ni le satellite, tout ça je m'en fous. Donc finalement c'est pas si hors de prix que ça, si tout mon abonnement, si ça inclut tout mon abonnement. Et moi je suis quelqu'un qui paye pour plein de trucs, comme je vous le disais, j'ai genre 30 dollars pour rien que pour Patreon. Donc je pense pas que tout le monde va payer pour tout, mais si chacun paye pour deux ou trois services de ce type là, je pense que ça peut fonctionner.
Oui, c'est vrai que c'est un modèle économique à tester, et il y a un côté, à l'heure actuelle, s'abonner, c'est un acte militant, clairement. Mais de toute façon, on arrive à un point où le web gratuit est en train de mourir, entre guillemets, faut être réaliste. Le modèle économique de la publicité, c'est fini. Et donc maintenant, c'est si on veut une information de qualité, donc plus par exemple pour de la presse, bah faut retourner un abonnement. Je pense à Next Impact par exemple qui fait des abonnements. Si on veut un podcast de qualité, bah faut essayer éventuellement contribuer via Patreon, bah Rendez-vous Tech,
c'est ou YouTube là.
Ou d'autres, oui, il y en a. Bon, c'est je cite
bien
ceux
sûr,
que je
bien
connais.
Sûr, je plaisante.
Après on arrive dans un monde en fait d'économie du don où c'est je vais donner pas force, soit je m'abonne, ou soit je donne ponctuellement, mais l'abonnement a l'avantage d'avoir un revenu régulier. C'est ça aussi, bah toi tu
ouais, bien sûr,
t'es
ouais.
Très bien placé pour
mais
savoir,
tu sais,
c'est que ça permet.
Tu sais, c'est pas. Oui. Moi je crois que tu dis la pub est en train de mourir. Je crois pas que la pub soit en train de mourir, je crois que c'est juste l'équilibre qui revient, parce qu'on a eu que de la pub pendant des années, mais moi je crois pas qu'elle va disparaître du tout. C'est juste que là on a un équilibre qui revient, et YouTube, à mon sens, était obligé d'offrir une option payante. Alors, il faut pas oublier que c'est juste une option. Il est tout à fait possible de continuer à regarder YouTube avec la pub sans payer. Et ça, c'est très important pour tous ces services. Enfin, pour une bonne partie de ces services. Moi, par exemple, personne n'est obligé de payer. Vous pouvez tout à fait profiter du Rendez-vous Tech sans payer. Et c'est le cas pour tous les podcasts. YouTube, pareil, on peut regarder avec la pub. Et même, on peut continuer à utiliser les adblocks. Même si, bon, c'est à mon sens plus discutable quand il y a l'option de payer, mais d'ailleurs tiens, bon, je pense qu'on va conclure sur YouTube Red. On a fait un petit peu le tour. T'as un truc à conclure sur YouTube Red, ou j'aurais une autre question à te poser sur les adblocks aussi?
Non, je pense que c'est objectivement c'est une très bonne initiative de Google, et ça va dans le sens où faut tester, voir si ça marche. Et puis quand même là c'est YouTube, donc c'est un gros service. C'est on aura plus tendance à payer pour YouTube que pour un service de vidéo inconnu en fait.
Oui, c'est
parce
sûr.
Que il y a aussi le contenu, c'est un peu une évidence à l'heure actuelle. Si on se lance dans des vidéos, faut être sur YouTube. C'est un peu pour un cercle vertueux, c'est si on n'est pas sur YouTube, on n'existe pas en termes de vidéos. C'est pas en étant sur Dailymotion faut être un peu partout. C'est comme les réseaux sociaux, faut être sur Twitter, sur Facebook. Si on est une marque ou si on se lance pour partager sa passion, c'est une évidence. Donc ça, c'est pour le côté objectif. Après, comme je disais au départ, et puis c'est le côté subjectif, c'est on a une centralisation. C'est on doit être sur YouTube. On peut plus retourner un système où, je vais sur le site que j'aime bien pour voir les vidéos. Non, c'est je vais, sur la chaîne sur YouTube.
Ouais, c'est vrai qu'il y a eu très certainement une centralisation du. C'est juste pour la découvrabilité, je dirais, ou enfin il y a plein de facteurs, mais c'est sûr qu'il y a une plus grande centralisation. On pourrait se lancer dans ce débat qui est très complexe également, mais avant de passer à la question de la neutralité du net, justement, qui rejoint peut-être un petit peu celle-là, on a notamment discuté avec des auditeurs, et je crois que c'était sur Reddit, justement. Je vous rappelle qu'on a relancé le Reddit du RDVTech, qu'on aura des histoires issues du Reddit un petit peu plus tard dans l'émission. Il y a des gens qui qui disaient ça serait pas mal d'avoir un avis d'un utilisateur d'Adblock. Moi, je pense qu'on l'a quand même relativement bien représenté. Mais je sais que toi, Jérôme, tu es utilisateur d'Adblock et j'aimerais te donner une libre antenne d'une ou deux minutes pour que tu nous expliques pourquoi tu l'utilises, pourquoi tu penses qu'il est justifié d'utiliser un Adblock. Et puis, je me limiterai, moi, à une petite réponse en quelques mots si besoin, mais je ne ferai pas vraiment de réponse, en fait. Je te laisse la libre antenne, quoi, en tant qu'utilisateur d'Adblock. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est justifié selon toi?
Alors, l'utilisation d'Adblock, c'est pas dans le sens où je veux le gratuit sans le contenu gratuitement sans payer. C'est vraiment une démarche où à l'heure actuelle, ça m'arrive de débloquer Adblock, le web est presque certains sites sont invivables. C'est pop-up sur pop-up, des vidéos qui se lancent sans qu'on ait rien demandé, etc. On a l'impression d'être à Las Vegas. C'est ça clignote de partout. Et faut être honnête.
J'aime bien cette image.
Oui, mais justement, ça amène la question de est-ce que ce site est vraiment intéressant pour moi, oui ou non. Et généralement, les sites qui ont beaucoup de publicités de partout, des publicités intrusives, c'est un peu on est tombé dessus parce qu'il y avait un lien via Twitter et puis on reviendra pas. On oublie ce site-là. Après, comme je disais, des sites où je vais régulièrement, soit je vais débloquer l'adblock parce que j'y vais avec ma connexion classique, donc le fait que je sois traqué parce que je regarde un site avec un contenu précis, ça me va. Ça veut dire que la problématique du tracking publicitaire avec les publicités qui nous suivent de site internet en site internet. Comme d'un côté, moi, je connais, les techniques, comme je disais, on peut passer par le réseau Tor. Si un site sur lequel je ne veux pas du tout qu'on sache que je vais, pour des raisons, par exemple, une recherche médicale, typiquement, en termes de vie privée, je vais utiliser Tor. Et donc là, ça va bloquer tous les scripts, etc. Par contre, les sites classiques que je regarde d'actualité, Next Impact, Numérama, pour pas les citer, je vais débloquer les publicités volontairement dessus. Parce que j'estime que le compromis entre ma vie privée et la qualité d'information que j'ai, vaut bien que je débloque les pubs. Ou sinon, je vais m'abonner dans le cas de Next Impact, pour ne plus avoir l'avantage d'une information de qualité sans les inconvénients. Donc là, c'est un peu plus mitigé. C'est que c'est vrai que grâce à Patrick et à toutes les interventions qu'il y a eu sur la publicité, quand j'explique qu'il faut bloquer les pubs. J'explique derrière aussi, oui, mais si vous aimez bien un site, regardez s'il n'y a pas un système de contribution financière. Ça peut être un don à l'année ou un abonnement si c'est proposé et on veut payer régulièrement. Mais c'est pas bloquer les pubs pour bloquer les pubs. C'est bloquer les pubs pour avoir un peu plus de vie privée. Mais si ce n'est plus gratuit, comme ce n'est plus gratuit, ce n'est plus nous le produit. Mince, 1, 2, 3, je recommence. On dit toujours, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Là, nous ne sommes plus le produit. Mais, la gratuité n'est plus là. C'est qu'il faut quand même payer le service. Donc, il y a aussi une incitation à bloquer les pubs, oui, ouais. Mais en incitant derrière à financer autrement.
Ouais, c'est d'utilisation presque éthique de
l'adblock. Oui, c'est ça. C'est comme dit, c'est que pour les sites qui font le top 10 des photos des chatons où j'irai une fois, j'ai pas de remords à bloquer les pubs, parce que c'est clairement un billet avec le top 10 des photos de chatons, c'est clairement pour ramener du monde et espérer avoir quelques clics pour engendrer des revenus financiers. C'est pas un travail éditorialiste très compliqué. Donc pour moi, il n'y a pas de d'intérêt, si ce type de web est mort,
ça te gêne pas, quoi, c'est ça.
Ça me gêne pas.
T'as pas l'impression de commettre un crime terrible, quoi.
Oui, par contre, si je lis un article de qualité que j'ai passé du temps, si je vois qu'il y a des espaces publicitaires où il y a un petit message qui est pas du tout intrusif et pas du tout, qui me dit pas « Ah, tu tues des chatons ou tu es un méchant parce que tu bloques », qui dit plus gentiment « Si vous aimez notre site, pensez peut-être à nous soutenir », si la formulation est moins agressive, là, je vais peut-être débloquer la pub pour dire « Ouais, j'ai une information de qualité, il faut une contrepartie ».
D'accord. Eh ben écoute, je vais dire deux choses. D'abord, oui. Je crois que s'il faudrait créer un jeu, vous savez, les drinking games américains, à chaque fois que tu dis comment dire, les gens vont prendre un shot Et du coup là, je pense qu'ils seront, ils étaient déjà bourrés au bout de 3 minutes d'émission.
Oh, mais... tout le monde n'a pas ton élocution, Patrick.
Ah, oh, c'est gentil, il le tourne en un compliment. Non, c'est vrai que c'est tout le monde a des tics de langage et mais celui-là il est marrant quand même. Et l'autre chose, c'est que je dirais que si les gens avaient ton éthique dans l'utilisation d'AdBlock, je crois qu'il y aurait aucun problème, enfin qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes d'AdBlock. Donc voilà, j'ai même pas autre chose à ajouter. Merci pour ton témoignage.
Oui,
on va continuer avec cet amendement, cette loi sur la neutralité du net qui a été votée. En fait, il y a quelques mois, on parlait du fait que la neutralité du net était en passe d'être adoptée par l'Union européenne. Et puis, entre-temps, il y a les lobbies qui se sont démenés pour inclure des amendements qui... alors, comment dire ? Avec le vote de cette loi qui a dû...
Je t'ai contaminé.
Oui, tu vas contaminer, exactement. Donc, il y a, selon les gens qu'on écoute, avec ce vote qui a eu lieu la semaine dernière, c'est soit la neutralité du net a été votée et l'Europe protège vaillamment la neutralité du net, soit la neutralité du net a été pervertie et il y a des exceptions hyper dangereuses qui ont été incluses par ces amendements voulus par les lobbies, de sans doute les lobbies des opérateurs téléphoniques, qui rendent la chose vraiment dangereuse. Alors, je vais vous expliquer en fait les points les plus importants sur ces amendements. Il y a d'une part la possibilité pour les fournisseurs d'accès de créer des... réseaux plus rapides, ce qu'on appelle des fast lanes, des voies rapides pour les sociétés qui pourraient le payer, mais pour des services spécialisés. Alors, quand on écoute les gens qui sont pour ce truc-là, ils vont vous parler de services médicaux, de services hyper importants qui vont être, qui vont avoir la priorité parce qu'il faut qu'ils soient, qu'ils arrivent immédiatement, enfin que les données arrivent immédiatement. Le problème, c'est que c'est vraiment pas défini et c'est très large et on peut imaginer que il y ait des opérateurs qui créent des voies rapides pour d'autres choses. Donc ça c'est un petit peu dangereux. La deuxième chose, c'est le zéro rating, les services inclus dans les abonnements particulièrement aux opérateurs de téléphonie mobile. On sait qu'il y a genre Deezer inclus ou enfin Deezer le service de musique Deezer inclus ou Spotify inclus qui sont vraiment nuisibles à la concurrence. C'est le problème, c'est que ces services-là ne vont pas compter sur votre forfait et donc vous aurez plus tendance à les utiliser et bien sûr à ne pas utiliser les services concurrents. Donc ça c'est un petit peu problématique aussi, ça a été fait avec parcimonie mais ça a été fait quand même jusqu'à maintenant. Là c'est encadré par la loi et c'est autorisé, donc c'est un petit peu inquiétant. Il y a aussi la possibilité pour les fournisseurs de services, fournisseurs d'accès de définir des classes de données et de les ralentir ou de les accélérer, même s'il n'y a pas de problème de congestion du réseau. Et ça, alors, c'est effectivement très problématique, en particulier parce que le contenu chiffré pourrait être considéré comme une classe non définie et donc il serait ralenti. Et enfin, il y a pour eux la possibilité de faire du network management, donc de gérer les vitesses de différents services pour prévenir une congestion du trafic, même quand il n'y a pas encore cette congestion. Le texte en anglais dit quand c'est un cas de impending congestion, ça veut dire la congestion, l'embouteillage va arriver très bientôt. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire impending congestion? Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est si ça continue comme ça, ça sera dans une semaine? Donc on va ralentir YouTube parce que voilà, et la situation continue. Donc si on ne le ralentit pas, ça ralentit les autres services. Donc on va continuer à le ralentir. On avait vu le problème avec Free pendant des mois et des mois et même peut-être des années. Donc voilà, c'est toutes ces exceptions un petit peu mal définies qui pourraient mener à des cas un petit peu inquiétants pour la neutralité du net, où on ralentit certains données et pas d'autres. Et d'ailleurs, il y a des fournisseurs d'accès, notamment en Allemagne et ailleurs, qui ont dit déjà, qui ont annoncé des choses inquiétantes, comme par exemple, on va offrir à des startups des possibilités d'avoir un accès plus rapide contre une partie de leurs revenus. On fait du revenu sharing parce que comme ça, ils pourront facilement concurrencer des grosses sociétés comme Google ou Apple. Et bien sûr, ça va à l'encontre de l'esprit d'Internet où tout le monde était de la nature même de la neutralité du net dont on a beaucoup parlé. Donc c'est effectivement très inquiétant. Je pense pas que ça soit, enfin j'espère qu'il y aura du bon sens de régulation et que les autorités compétentes sanctionneront les abus. Mais je pense que c'est quand même un petit peu préoccupant. J'imagine que toi, tu es catastrophé avec ton amour de l'internet libre, Jérôme.
Oui, tout à fait. Bah moi, j'ai suivi un petit peu ça. Là, j'ai pris quelques notes des éléments que tu citais pour pouvoir réagir dessus. Et c'est vrai que, comment dire. Par exemple, tu disais en dernier, les autorités de régulation vont surveiller ça. Il faudrait presque une autorité, je pense, au moins déjà à l'échelle européenne, pour vraiment contrôler ça. Parce que, comment dire, là, c'est un peu pays par pays, on sait pas trop, ça reste dans le flou. Il y a les lobbies après qui vont faire pression de leur côté. On sait pas trop comment ça va se passer. Parce que ils vont. J'ai l'impression que de la même manière qu'on dit oui pour surveiller Internet, c'est pour les terroristes. On va nous dire bientôt ah la neutralité du net, c'est comment dire vous voulez que quelqu'un qui se fasse opérer à distance meure parce que vous avez regardé une vidéo YouTube.
Non mais c'est exactement ça. C'est exactement ça l'argument.
Oui, c'est ça. On va avoir, comme dire, alors, si vous regardez trop de vidéos YouTube, quelqu'un qui se fait opérer par des robots à distance, par un chirurgien qui a 5000 km de là, bah, il va mourir parce qu'il y a un temps de latence. Alors, pour ça, comment dire, moi, je dirais, pourquoi on ne crée pas des réseaux dédiés, en fait. Ça existe, par exemple, tout ce qui est réseau de banque, c'est des réseaux à l'ancienne qui sont déconnectés d'Internet. On pourrait faire avec des lignes dédiées.
Surtout, je crois que dans ce genre de cas précis, effectivement, ça peut se justifier. Mais on pourrait dire, par exemple, définir les choses, dire pour les services médicaux, on peut utiliser un truc plus rapide, pas des services spéciaux qui sont très mal définis. Et c'est exactement le genre de mécanique qu'on peut avoir quand on nous fait peur avec est-ce que vous voulez que des terroristes viennent se faire exploser dans l'école de votre fille? Non, bien sûr, donc on va surveiller tout le monde. Oui, mais il y a un équilibre. Là, en l'occurrence, tous ces problèmes ne viennent pas. Par exemple, il n'y a rien, aucun rapport entre la start-up qui va devoir payer plus ou payer une partie de son chiffre d'affaires pour avoir un accès correct et le chirurgien qui va devoir soigner quelqu'un à distance. On parle de deux choses très différentes, là.
Oui, je pense qu'il faudrait presque faire un réseau dans le réseau dédié au médical. Parce qu'après, il peut y avoir aussi les problématiques au niveau sécurité, où on se dit, oui, mais ça passe par Internet. C'est très vague, ça veut dire que ça passe par Internet, ça veut dire que ça peut potentiellement se faire hacker un jour. Ça veut dire que bon, bah la machine qui est utilisée par le chirurgien qui a 5000 km, elle est accessible via Internet. Alors on va dire, oui, mais il y a la sécurité, du chiffrement, etc. Oui, jusqu'au jour où il n'y en a plus.
Ça pose d'autres problèmes, quoi. Là, c'est même plus que la
donc,
question.
Donc, c'est pour ça. Avoir un réseau dédié, c'est peut-être une solution. Après, ça veut dire aussi, on aurait un réseau de l'internet, on va dire pour le business, par exemple, où ça serait les entreprises qui sont reliées entre elles, et donc on n'a plus l'internet où il y a la notion de interconnexion. Donc, ça veut dire on recloisonne le réseau, et puis on dit, ah bah il y a le réseau divertissement, avec, des chaînes comme YouTube, etc. Et puis après, il y aura l'internet des libristes, qui vont dire, ah bon, bah on refait, je tire un câble RJ45, ou avec des antennes Wi-Fi, puis je recrée un internet alternatif, où ou une sorte de darknet autre. Donc ça soulève plein de problématiques. Par exemple, le contenu chiffré ralenti, ça, c'est un souci. Parce que d'un côté, on nous parle de plus en plus de faut chiffrer le maximum de connexions pour avoir un peu plus de sécurité, de vie privée, etc. Et donc on va arriver dans des tuyaux qui sont de plus en plus opaques. Donc on va avoir des paquets chiffrés, mais on ne sait pas si c'est un bout de vidéo, un mail ou un document qui circule. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On ralentit tout ce qui ressemble à du chiffré. Mais comme je disais juste avant, pour la partie sécurité pour les réseaux médicaux, bah, ça va être chiffré aussi. Donc ça veut dire quoi? Faudra dire, ah, ça c'est du chiffré autre que médical. Donc
ouais, il y a les considérations. En fait, je crois que c'est exactement ce dont tu parles. C'est le problème qui vient de ce flou. C'est que à partir du moment où on fait des différences entre les données sur Internet, on se retrouve forcément dans ces situations où il faut faire des choix, et les choix ont des conséquences, et c'est ce que tu illustres très bien. Ces conséquences nous amènent à un système qui est différent de l'Internet d'aujourd'hui, et il y a beaucoup de gens qui craignent que, à terme, ce genre de décision vague et dangereuse nous amène à un réseau qui ne sera plus ce qu'on connaît aujourd'hui, pour tout plein de raisons.
Ouais. Bah, le souci de tout ce qui est législatif, c'est que si on fait des lois trop précises, comme la technologie elle évolue très rapidement, des lois trop précises vont être adaptées à un instant T, et puis un mois plus tard, elles sont plus valables. Et si on fait des lois trop vagues, bah, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. Un autre exemple, bon, peut-être un peu sécuritaire, mais on peut très bien imaginer de dire, voilà, bah, les paquets qui circulent vers la Syrie, on va les ralentir parce que potentiellement c'est des discussions de terroristes, par contre, si c'est des paquets qui vont vers les États-Unis, alors là, bah, ils vont aller plus vite parce que, c'est quelque chose, ça veut être du business ou autre. Ça veut dire on peut aller très loin. C'est selon les pays, on peut se dire, bah non, ralenti parce que c'est pas un pays allié, par exemple, de l'OTAN, ou c'est pas un pays allié économique. Et donc, on ralentit les paquets.
Je dirais que là c'est un exemple vraiment extrême que tu prends, qui à mon avis est tu vas trop vers l'extrême, et c'est ce qui fait le jeu des gens qui vont dire, ah mais voilà, mais non, bien sûr, c'est pas de ça qu'on parle. Je dirais que les gens qui défendent ces amendements vont vous dire, ah mais effectivement, on a bien besoin de, on peut bien ralentir un mail et pour vous faire arriver votre vidéo plus rapidement. C'est à ce niveau qu'ils parlent. Et ils vont ensuite, eux, essayer de tirer la corde jusqu'à faire payer une start-up, par exemple, pour qu'elle ait un service correct. L'exemple que tu donnes, à mon sens, c'est le genre de truc où on n'arrivera pas. Peut-être que je me trompe, oui, mais je crois que c'est des choses qui sont un petit peu... comment dire, qui me laisse penser que, même si, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais
oui, même c'est si le but, c'est... Hein, je l'ai fait exprès. Hein. J'ai donné cet exemple justement pour qu'il y ait une sorte un peu de débat, que
ouais,
ce soit pas.
Bah oui. Oui, et donc moi, ce que je pense, c'est que ces amendements sont dangereux, mais je pense qu'ils sont pas aussi dangereux que ce qu'on peut entendre chez certaines personnes qui sont un peu alarmistes, quoi. Voilà.
Oui, tout à fait. Autre chose que je voulais soulever, c'est que on parle beaucoup de débits différents selon les services, etc. Et on a parlé tout à l'heure de centralisation. Je voudrais revenir à ce qu'on appelle l'ADSL. Le A de ADSL, c'est-à-dire asymétrique. C'est qu'on est parti du principe que, comme dire, les gens aient besoin de beaucoup de débits en descendant, c'est-à-dire qu'ils veulent récupérer beaucoup d'informations, mais ils en envoient peu. Donc on a un download qui est de plus en plus conséquent, mais on a un upload qui est un peu plus léger. L'apport de la fibre, c'est que on a un upload qui, lui, est beaucoup plus élevé. Alors après, c'est pas chez tous les fournisseurs d'accès. Il y a des fournisseurs qui vont dire, ah bah non, les gens, ils sont surtout consommateurs, donc ils vont avoir un download élevé, mais l'upload, ça sert à rien. Or, si on a un upload élevé, on peut arriver à un internet décentralisé. Si on peut imaginer, j'ai un serveur chez moi pour partager quelques petites photos, j'ai mon cloud personnel qui est chez moi. Il n'y a que moi qui ai besoin d'y avoir accès, mais quand je veux y avoir accès, j'ai besoin d'y avoir accès assez vite. Et donc, il faut, c'est un côté aussi, bah là, on va dire quoi? Ah oui, mais c'est, j'ai besoin de consulter mon agenda ou de récupérer un document qui est chez moi, il va être ralenti par rapport au fait que s'il était chez Google Docs. Donc, c'est aussi ça,
j'irais même... conséquence. J'irais même plus loin. Le fait que cet Internet soit asynchrone, comme tu l'as très bien fait remarquer, ça a eu des conséquences sur la centralisation du net en général. Et c'est là peut-être qu'on peut comprendre ce que veulent dire les gens qui imaginent des scénarios peut-être un petit peu catastrophes, à mon sens. C'est que cette utilisation asynchrone du net a eu pour conséquence que il faut bien comprendre que au début d'Internet, l'idée d'avoir un serveur chez soi était tout à fait normale. On pouvait tout à fait avoir un serveur qui allait distribuer des images, du texte. Ou aujourd'hui, on pourrait tout à fait imaginer un serveur avoir moi le site frenchspin.fr. Je pourrais en théorie avec une connexion fibre de bonne qualité l'avoir chez moi et servir tous les gens qui ont besoin de télécharger les fichiers. Si j'ai un truc à 50 ou 100 gigas remontant, eh ben pourquoi pas. Mais comme on est parti du principe que les gens avaient besoin de télécharger plus que, enfin de downloader plus que d'uploader, eh ben cette idée d'un serveur chez soi a disparu. L'idée que chacun pouvait devenir serveur de contenu a vraiment disparu, et donc on s'est dirigé vers des services dans le cloud ou des services centralisés comme YouTube ou d'autres. Alors évidemment, personne, un gros YouTuber ne pourrait sans doute pas héberger ça chez lui, mais il n'empêche que quelqu'un avec des besoins plus modestes pourrait. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas du tout développé parce qu'on a considéré les connexions comme prioritairement asynchrones. Donc...
Je sais qu'il y a des personnes qui réfléchissent à des technologies, de type peer-to-peer pour partager les vidéos, ou par exemple avec pour se réapproprier une décentralisation. Où là, l'idée, c'est par exemple la vidéo qu'on aime bien, au lieu qu'elle soit sur YouTube, elle est répartie un petit peu chez tout le monde, et vraiment le principe du peer-to-peer. Et plus il y a des personnes qui la regardent, et plus ça ira vite. C'est-à-dire que les vidéos populaires vont être beaucoup cidées à ce que beaucoup de personnes les regardent.
Ouais, il va y avoir
mais
beaucoup de sources.
Mais après, il y a toujours le souci de comment on met en place ces technologies. Et c'est où est-ce qu'on faut quand même quelque part un annuaire, un YouTube like avec un annuaire en disant voilà j'ai toutes ces vidéos là. Et puis on retrouve toutes les problématiques du peer-to-peer avec oui mais si personne ne cite, le lien est mort, etc. Mais de la même façon que sur YouTube, si la chaîne n'existe plus, on n'a plus les vidéos.
Je crois que ce que t'évoques, ce que tu touches du doigt là, c'est la possibilité pour les gens très intelligents qui font Internet de trouver des solutions à ce genre de problème. Et je veux espérer, et ça sera notre conclusion sur le sujet, je veux espérer que si jamais effectivement ces exceptions dangereuses qui ont été votées en viennent à poser des problèmes de ce type-là, on trouvera des solutions techniques pour contourner ces problèmes. De la même manière qu'on a trouvé des solutions techniques comme le partage en peer-to-peer pour contourner le fait qu'on ne pouvait plus héberger facilement chez nous des serveurs qui partageraient des fichiers. Quand je dis partageraient des fichiers, ça peut être tout simplement héberger un site web pour qu'il s'affiche chez tout le monde. Donc c'est pas forcément des questions illégales. Donc j'espère que les ingénieux ingénieurs d'Internet trouveront des solutions si ces problèmes finissent par se poser. Elle te va cette conclusion? Tu veux ajouter quelque chose? N'hésite pas si tu veux.
Non, je suis tout à fait d'accord. L'avenir nous le dira, et puis je pense qu'il y aura d'autres émissions du Rendez-vous Tech qui nous tiendront au courant de l'avancée des problématiques.
Et j'espère, et j'espère pendant très longtemps. Et d'ailleurs, on a commencé à prendre le chemin de cette longévité pour le Rendez-vous Tech, puisque je vais vous dire juste après avoir remercié d'autres auditeurs, comme je le fais souvent, des auditeurs qui sont devenus patriotes, qui soutiennent le Rendez-vous Tech financièrement. On parle beaucoup d'argent ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est normal, hein, c'est au cœur des débats sur le net. Est-ce que tu peux couper ton micro quand tu fais d'autres choses ou quand tu bouges un peu ?
Oui.
Donc on parle beaucoup de ça en ce moment, mais heureusement j'ai une communauté soudée et une communauté volontaire qui soutient l'émission. Alors je vais remercier encore des gens qui sont allés sur Patreon pour soutenir le Rendez-vous Tech, et en l'occurrence il s'agit de l'ADEC 04, de David Catu, Le Bibou, de Reaper Ludovic, Yumi, Philippe Pinel, Christophe, Mathieu Negri, Didier Lambert et Touki42. Merci à vous quatre. Merci à tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech, tous ceux qui sont devenus patriotes du Rendez-vous Tech. C'est grâce à vous que cette aventure qui a commencé il y a maintenant officiellement un an continue à bien se passer pour moi. C'est grâce à vous que l'émission existe aujourd'hui, hein. Je crois que maintenant on peut effectivement le dire. Et c'est aussi grâce à vous que je peux faire cette annonce à laquelle ont eu droit les Patriotes un petit peu en avance il y a quelques jours. Je suis maintenant officiellement président de French Spin SAS, la société qui produit les émissions que je produis. Je suis alors je suis pas employé parce que je me paye pas encore de salaire, ça viendra dans pas trop longtemps j'espère, mais je suis président de French Spin SAS et la société existe, elle est lancée, elle a été enregistrée et tout et c'est vraiment grâce à vous, grâce à votre générosité, grâce à votre militantisme. Donc merci à tous les patriotes et bien sûr, comme je le disais quand on parlait de YouTube, merci à tous les auditeurs que vous payez ou pas. Je comprends tout à fait que tout le monde n'a pas forcément les moyens, l'envie ou même ne pense pas, pense juste que l'émission est sympa mais que ça vaut pas $1 par épisode ou $2 par épisode. Il n'y a pas de souci. Si vous pensez que l'émission vous convient, eh ben peut-être que ça serait le moment d'y réfléchir, hein. C'est le moment où la société est créée. C'est l'anniversaire, un an. Vraiment, pour le coup, là, ça fait pile un an que j'ai commencé cette activité en tant que professionnel. Et voilà, donc si vous voulez rejoindre la communauté merveilleuse des Patriotes, vous savez que vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech. Et comme le disait Bruno Twitos, c'est hyper simple. Il l'a fait en 2 minutes quand il avait enfin décidé de le faire. Donc n'hésitez pas, c'est super simple et c'est absolument sans engagement. Vous pouvez changer, vous désabonner quand vous voulez, vous donner la somme que vous voulez, il n'y a aucun problème là-dessus. Et je voulais aussi parler, avant de nous relancer dans les news et les rumeurs, c'est des sujets un petit peu connexes, je voulais parler rapidement de la soirée du Rendez-vous Tech qu'on avait fait sur Paris il y a 2 jours, à laquelle Jérôme était présente, et aussi vous parler un petit peu du sondage que Guillaume de Statosphère m'a aidé à dépouiller. Alors, pour commencer la soirée, c'était super sympa. On était, franchement, une bonne cinquantaine, soixantaine. C'était hyper sympa, il y a plein de gens qui sont venus, il y a des gens qui sont venus du Havre, il y a des gens qui sont venus de Lyon, il y a des gens qui sont, je crois que c'était Jérémy du Havre, Johan de Lyon, il y a eu plein de gens effectivement qui se sont retrouvés. On a passé, au début on était censé passer 2 heures ensemble, au final c'était 4 heures, où j'avais plus de voix au final parce que j'ai beaucoup parlé. J'ai essayé de parler à tout le monde. Je pense qu'on était qu'on a tous passé un bon moment. C'était une super ambiance. J'étais un petit peu nerveux avant d'y aller, mais au final tout le monde était tellement chaleureux et tellement sympa. Il y avait pas que des patriotes, il y avait aussi des simples auditeurs. Tout le monde était tellement gentil et prévenant. On a bu quelques coups ensemble, on a mangé ensemble, on a discuté. C'était un super moment et j'aimerais vraiment qu'on refasse ça l'année prochaine peut-être, donc commencer à y penser peut-être fin octobre. Je pense qu'on fera un truc, on verra, mais j'aimerais qu'on refasse un truc. C'est sur Paris malheureusement toujours, hein, je pense, mais c'est quand même le truc le plus simple. Genma, toi t'y étais aussi, c'était sympa pour toi effectivement?
Ah oui, effectivement, c'était très sympa parce que tout l'intérêt, c'était pas uniquement de rencontrer Patrick en vrai, c'était vraiment de parler avec la communauté des Patriotes, les remercier les uns les autres pour le fait qu'ils financent ton émission et qu'ils te permettent d'en vivre et de faire ça plein temps et donc de faire une émission de qualité en ayant le temps de la préparer sans le stress d'avoir un travail à côté, des horaires de transport, etc. Moi, je voudrais dire une petite chose aussi, c'est tu disais si vous estimez que l'émission coûte 1 euro, etc. Et puis il y a toujours, on abordait là le fait que oui, on paye de plus en plus pour différents services. Donc au bout d'un moment, on est obligé de faire un choix. Mais je pense qu'il y a une façon de contribuer, à ton financement, sans forcément donner de l'argent. C'est de faire découvrir l'émission à d'autres personnes en disant voilà, il y a Patrick qui fait ça, c'est pas mal, et tout de suite d'apporter le côté, il y a un système de financement pour cette émission, et si toi tu aimes bien l'émission, peut-être que ça peut être bien de donner un petit peu d'argent. Si on arrive par exemple à convaincre 10 personnes de donner 5 euros tous les mois, ça fera 50 euros pour Patrick, c'est peut-être plus simple et mieux pour Patrick que de mettre 10 euros soi-même. Parce qu'on peut très bien se dire
Ouais, je crois que les gens qui réussissent à convaincre leurs amis de me donner de l'argent, je vais vous engager, moi. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais par contre, ce que tu dis, encourager les gens à faire découvrir l'émission à des amis, on va en parler dans les résultats du sondage dans un moment. Ça, c'est vraiment l'un des moyens principaux par lequel les gens découvrent l'émission. Donc oui, si vous pensez que, alors. Moi, je préfère toujours que vous donniez des sous. Hein. C'est forcément la solution préférée. Mais par contre, il y a aucun souci, effectivement, si vous voulez faire découvrir l'émission à des amis, c'est un super moyen aussi de m'aider et de me filer un coup de main. Là, c'est si vous pouvez faire ça. Et parce que les podcasts sont très difficiles à découvrir, donc la caution d'un ami, l'encouragement d'un ami, ça peut être un super moyen de filer un coup de main à l'émission si vous voulez pas donner de l'argent, quoi.
Ouais, mais je pense qu'il y a un travail de sensibilisation, mais qui peut comme on dit, c'est tiens, on parle de neutralité du net ou autre, ou les adblock, etc., la machine à café. On peut dire bah tiens, justement, je connais une émission qui propose des alternatives, et il en est Patrick, on est la preuve vivante. Et je sais que samedi soir, il y a un ami que j'ai croisé vraiment par hasard qui était là. Et donc j'ai eu une dia, qu'est-ce que tu fais là? On discute et tout ça. Puis je dis, bah, je suis là pour Patrick, etc. Et puis il me dit, ah, c'est le fameux podcasteur dont tu avais parlé une fois. Et justement, il ne connaissait pas du tout l'émission. Et je sais que, bon, là, c'est une petite pub pour reflet.info, où eux-mêmes se cherchent un système de financement, où ils font un contenu gratuit, mais ils font des appels à dons, etc. Et moi, je disais, c'est faisable. Patrick, on est la preuve vivante. Il a une communauté, qui est prête à le soutenir. Et donc, bah, il s'est lancé. Mais pourquoi? C'est parce que, bah, c'est donnant-donnant. On donne pour avoir une émission de qualité, et Patrick nous le rend parce que, bah, il le prépare sérieusement, etc. Et le jour où il fera, une émission, qui est moins bonne parce que, bah, il est sur ses petits lauriers, et puis, bah, il laisse la routine s'installer, bah, je pense que,
je m'en rendrai compte très vite, hein, oui.
Oui, mais c'est, je pense que toi, tu le montres bien, que tu en as parfaitement conscience, tu fais ton travail consciencieusement, tu le faisais déjà avant, et c'est juste dans la continuité, donc c'est normal. Mais on peut sensibiliser à ça en disant, voilà, on bloque les pubs, mais comme je disais tout à l'heure, on va les débloquer pour les sites qu'on aime bien. On aime bien Patrick, bah, soit on le finance directement, soit on expose à des personnes qui se disent, tiens, bah, j'ai un peu d'argent, mais je sais pas à qui donner. On voit des fois dans, moi je le vois sur Internet, des gens qui disent, tiens, bah, j'ai un peu d'argent, j'aimerais bien le donner à des projets que j'aime bien, qui en a le plus besoin? Donc ça va être par exemple la quadrature du net ou autre, et bah si ça peut être aussi dire tiens, bah, si tu veux une émission de sensibilisation et de vulgarisation de l'actu tech, que t'aimes bien ça, bah il y a l'émission de Patrick, le rendez-vous tech, et sache que tu peux participer au financement de cette émission.
Bah, c'est gentil. Toujours, écoute,
je sais ce que je fais. C'est faut pas y aller en disant t'es obligé de payer, etc. C'est juste aborder ce point-là, et après bah les gens ne payent ou ne payent pas, mais au moins qui sachent qu'il y a cette possibilité. C'est ça qui est important. C'est pas dire, ah, faut à tout prix que tu payes. Non, c'est pas ça que je dis. C'est dire, présenter l'émission en disant, on peut financer l'émission.
Ouais.
Après, bah, les gens font ce qu'ils veulent. Mais ne pas oublier cette information.
C'est très gentil. Je te laisse ce mot-là, comme sur la question de l'adblock. Je te laisse le fin mot sur cette question. Mais effectivement, donc c'était un super moment, une super rencontre, et puis on a vu plein de gens différents qui venaient participer à l'émission. C'était vraiment sympa de vous rencontrer en vrai, parce qu'on interagit avec Twitter, on interagit avec Facebook, etc. Et là, c'était une vraie rencontre physique où on a pu serrer la main, on a pu discuter, donc c'était vraiment un bon moment. Et je voudrais donc continuer en parlant du fameux sondage que j'ai lancé il y a quelques semaines déjà. Vous avez été assez nombreux, franchement, à répondre, plus de 1000, presque 1100 personnes. Et il y avait des réponses hyper intéressantes. Encore une fois, un grand merci à Guillaume de Statosphère d'avoir fait un petit peu de travail pour répondre, pour trier toutes ces réponses. Déjà, je vais passer les réponses un petit peu en revue, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, est-ce que tu vas passer en revue, est-ce que tu vas nous donner des infos sur toutes ces réponses? Bien sûr, il y a aucun souci, hein, je partage tout ça avec vous. Première info, il y a 95% des gens qui ont répondu. Alors oui, avant, préface, les gens qui ont répondu, bien sûr, sont des gens qui sont suffisamment intéressés par les émissions pour être, pour en avoir entendu parler de ce sondage sur Twitter ou Facebook ou dans l'émission elle-même et pour aller répondre ensuite. Donc, c'est une section, une sous-section des auditeurs quand même. Mais 95% d'entre eux écoutent le Rendez-vous Tech, donc 5% n'écoutent pas le Rendez-vous Tech, c'est intéressant quand même. Presque deux tiers écoutent aussi le Rendez-vous Jeu. L'émission n'a qu'un an et pourtant on arrive presque au niveau de Upload qui est un petit peu au-dessus de deux tiers et l'émission a cinq ans pour Upload. Il y a plus de 10% qui écoutent aussi une émission en anglais. C'était intéressant à découvrir ça. Alors, une immense majorité des gens sont contents du rythme ou en voudraient plus. Il y a très peu qui, enfin personne n'en veut moins en gros. Comment est-ce que les gens ont découvert les émissions? 20% sur iTunes, recommandation d'un ami, une petite partie, je ne vais pas tous les énumérer. Il y avait 20% sur un autre podcast où on était présent, donc la cross-pollinisation fonctionne toujours, il y a plein de gens qui s'en souviennent plus. Je vais passer, il y a quand même des trucs qui sont pas ultra intéressants, mais il y a bien sûr sur cette catégorie presque 90% des gens qui écoutent des podcasts plusieurs fois par semaine au moins. Il y a aussi, j'avais posé la question, pour le moment je trouve ce sondage déjà trop court, il y avait 10% des gens qui ont dit trop court, donc merci à vous, 30% marrant. Est-ce que vous participez au Patreon du Rendez-vous Tech? Tiens, plus de 30% des gens qui ont répondu y participent, donc c'est important, mais c'est presque 35%, et il y a autant de gens qui ont dit qu'ils n'y participent pas aujourd'hui, mais qui comptent s'y mettre un jour. C'était une information hyper intéressante, là, financièrement, pour le coup, parce que parmi les gens qui ont répondu au sondage, il y en avait autant qui ne participaient pas encore, mais qui comptaient s'y mettre un jour, que de gens qui participaient déjà. Donc là, je poserai une question à ceux qui comptent s'y mettre un jour. Venez dans les notes de l'émission ou sur Twitter ou quelque part. Dites-moi pourquoi vous dites « je m'y mettrai un jour et pas encore aujourd'hui ». Je suis curieux vraiment de le savoir. Peut-être que certains d'entre vous ont n'ont pas assez d'argent aujourd'hui. Peut-être que ils sont, je sais pas moi, ils s'y sont jamais mis, ils n'ont pas réfléchi, mais c'est beaucoup de gens quand même qui comptent s'y mettre un jour. Je serais curieux de savoir pourquoi vous attendez. De manière très intéressée, hein, pour ma part. J'avais aussi posé une question sur le fait que est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une autre émission en Patreon? Il y a genre 30% de gens qui seraient intéressés et en fait 40% qui seraient intéressés par un autre Patreon. Donc ça, c'est intéressant aussi pour moi. Là encore, on pense en société sur le long terme avec la longévité que j'espère avoir à cette société. Ensuite, la plupart des gens écoutent les émissions sur des apps de podcast, bien sûr, énormément sur Podcast Addict, sur Android, et énormément avec l'app de podcast d'Apple. J'ai été curieux d'apprendre que beaucoup de gens l'utilisent et écoutaient avec l'app de podcast d'Apple, donc je pensais qu'elle n'était pas très utilisée. C'était les deux majoritaires, l'app de podcast d'Apple et Podcast Addict. Ensuite, d'autres informations intéressantes, il y a seulement moins de 3% des gens qui ont répondu qui sont des femmes, 95% d'hommes et 1,5% de robots. Donc seulement 3% de femmes, ça a été confirmé à la soirée d'il y a quelques jours, il y avait très très peu de filles, elles ont dû se sentir un petit peu seules. Les pauvres, c'est vrai que peut-être qu'on n'a pas assez d'intervenants qui sont des filles aussi. Peut-être qu'il faudrait que je travaille là-dessus. L'immense majorité des auditeurs a entre 25 et 50 ans. Quand je dis l'immense majorité, on parle de 80%. Il y a très très peu de moins de 18 ans. Il y en a que 8 qui ont répondu. Et voilà, donc l'immense majorité, c'est entre 25 et 50 ans. Ensuite, l'immense majorité aussi est des employés. Il y a 70% d'employés dont sur ces 70%, j'avais fait deux types de réponses pour des employés. C'était employé et fier de l'être ou employé et je déteste mon boulot, mon boss et ma boîte. Et bah figurez-vous que 15% des gens qui ont répondu ont dit je déteste mon boulot, mon boss et ma boîte. C'est terrible quand même. 15% des gens détestent leur boîte, enfin détestent leur boulot en fait. J'espère que vous pourrez trouver le courage de chercher autre chose, de partir, de faire autre chose. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai pris des grandes décisions comme ça, je l'ai jamais regretté. Bon, ensuite, il y a des gens qui ont des responsabilités, qui peuvent pas faire ce qu'ils veulent, mais c'est quand même. Enfin, Jérôme, je te repose la question. Toi, t'es content de ta situation, de ton travail ?
Oui, ça va. Actuellement, ça va.
D'accord, très bien. Bon.
Après, comme on dit, je travaille dans une grande société de services en informatique, donc il y a des hauts et des bas. Mais bon, pour l'instant, ça va.
Ça c'est comme tout le monde.
C'est comme tous les boulots.
Ouais, c'est ça. Je vous avoue que même moi, hein, dans les podcasts, on en parlait justement encore à la rencontre. Il y a plein de gens qui me posaient des questions hyper intéressantes. Moi aussi, mais moi en tant que podcasteur, j'ai des hauts et des bas. Dans l'ensemble, je suis quand même super content. Mais c'est pareil pour tout le monde. Hein. Tout le monde a toujours des hauts et des bas. Le problème, c'est quand il y a beaucoup plus de bas que de hauts que ça devient vraiment problématique. Moi, j'ai beaucoup plus de haut que de bas, donc je suis très content. Sur la question, pour vous, Patrick, c'est un peu l'équivalent français de George Clooney, Brad Pitt, Robert Downey Jr., Colin Firth ou Meryl Streep. Il y a 20% des gens qui ont dit Robert Downey Jr., donc j'ai décidé de me faire construire une armure d'Iron Man, et 15% des gens qui ont dit Meryl Streep quand même. C'est mon côté sensible, tu vois, mon côté féminin qui est ressorti à travers les émissions. Pour l'équipement, il y avait des trucs intéressants. 80% des gens utilisent des PC sous Windows. Alors là, les pourcentages sont bien sûr plus que 100% parce qu'il y a des gens qui utilisent plus d'une machine. Hein, mais donc, on les prend comme ça. 80% des gens utilisent des PC sous Windows. 40% utilisent des Mac. C'est intéressant parce que évidemment la part de marché d'Apple sur ordinateur est beaucoup plus faible que ces 40%. Donc il y a beaucoup de gens, ils sont surreprésentés dans l'audience. 45%, 46% utilisent des iPhones, 60% utilisent des Android. Donc un petit peu plus quand même, 15% de plus presque utilisent des Android que des iPhones parmi les auditeurs qui ont répondu encore une fois. 10% téléphone Windows. Donc on est dans la moyenne nationale en fait. Il y a à peu près 10% d'utilisateurs de téléphone Windows. Quand même 5% qui utilisent BlackBerry, Symbian, Firefox, etc., un autre appareil. Et 30% utilisent un PC sous Linux ou un autre système. Là aussi, j'ai été surpris. Je pense que Genma fait partie de ces gens-là. Mais 30% quand même d'utilisateurs de Linux, c'est impressionnant, je trouve.
Non, ouais, moi je pensais pas autant. C'est vrai que pour un podcast généraliste comme les Rendez-vous Tech, c'est presque étonnant.
Ouais. Vraiment, ouais. C'est parce qu'on est très généraliste, quoi. On parle pas énormément de logiciels libres, etc. Donc.
Ouais, c'est vrai que souvent il y a limite du troll avec oui, tu parles trop d'Apple, Patrick, tu es un fanboy. Après, tu veux nous dire tout l'amour que tu as pour Windows 8.1 et maintenant Windows 10. Ouais. Et là, on va te dire que tu es un vendu pour Microsoft.
c'est vrai. C'est très généraliste quand même. Alors, il y a ensuite des questions sur le jeu vidéo et j'ai été surpris d'apprendre, enfin les auditeurs sont beaucoup d'auditeurs du rendez-vous jeu, mais en l'occurrence il y avait, alors attendez que je reprenne mes chiffres, il y avait, on était à 70%, même ouais, à peu près 70% de joueurs de jeux vidéo. Mais quand je dis des joueurs, c'est des gens qui jouent au moins, qui se mettent du temps de temps en temps, mais pour jouer vraiment aux jeux vidéo. Je parle pas des gens qui ne jouent que sur téléphone portable dans les transports, par exemple. Donc vraiment beaucoup de joueurs de jeux vidéo parmi l'audience. Et voilà. Et puis il y avait ensuite des trucs un petit peu plus spécifiques que nous a sorti Guillaume. Pour les jeux vidéo, il y a 14% de l'échantillon qui ont des PlayStation Vita. Incroyable, la PlayStation Vita qui est une console presque à l'abandon, et ben il y a quand même 14% de gens qui en ont une. Deux tiers des gens qui ont répondu dans les deux premiers jours. Donc il y a vraiment des gens qui sont hyper prêts à répondre immédiatement. Ça c'était intéressant aussi. Et enfin, dernière note, 90% des auditeurs écoutent au moins un second podcast que je produis. Donc il y a vraiment, enfin la plupart d'entre vous écoutent au moins deux émissions émissions que je produis. Ça, c'est quelque chose qui, moi, me rend très fier parce que ça veut dire que vous appréciez, évidemment, le style. Et c'est pas juste pour l'information. Par exemple, pour le rendez-vous tech, vous n'écoutez pas que l'information tech. Vous n'écoutez pas parce que c'est de l'information tech. Vous appréciez aussi le style d'émission que je produis puisque vous en écoutez au moins deux et peut-être même plus. Bon voilà, j'ai pas dépouillé toutes les autres réponses qui étaient des réponses libres. Il y avait quand même des petites choses intéressantes à retenir sur le sujet. Il y avait pour à la fin du sondage, j'ai dit si vous pouviez dire une chose à Patrick, qu'est-ce que vous diriez ? Il y a eu beaucoup de bravo. Donc alors là vraiment merci beaucoup de vos bravos. Il y a eu pas mal de, enfin il y a eu beaucoup, il y en a eu encore plus de continu. Donc là c'était vraiment presque un appel du cœur, vous me disiez de continuer. Donc vous inquiétez pas, maintenant on a une vraie structure, on est vraiment parti pour durer, on a une vraie un vrai système. Je vais continuer, il y a aucun souci, et encore plus puisque vous m'encouragez tellement. Et alors là, le truc qui a eu le plus, et j'ai été estomaqué, c'est le nombre de personnes qui, s'ils pouvaient dire une chose, ils diraient « merci ». C'est de loin la réponse la plus présente. C'était plein de gens qui disaient « merci, merci, merci » partout. Et je sais plus quand on avait dit, je crois que c'était dans une review sur iTunes, qui est un autre moyen d'ailleurs d'aider l'émission, c'est de faire des reviews sur iTunes par exemple, ou ailleurs, là où vous écoutez des podcasts, pour que ça remonte dans les classements. C'est quelqu'un qui disait le rendez-vous tech, c'est l'histoire de gens qui disent merci à quelqu'un qui leur dit merci. C'est des remerciements mutuels. Et là, je l'ai vraiment ressenti, quoi, parce que moi, je vous dis merci tout le temps, merci d'écouter, merci de contribuer. Et là, la réponse la plus, enfin, la chose que les gens disent le plus souvent, mais de très très loin, hein, de largement, c'est de me dire merci. Donc voilà, c'est le remerciement infini. Merci à vous de d'écouter les. Mission, merci de contribuer. Et bien sûr, il y a eu quand même beaucoup de petits malins qui ont répondu à « si vous pouviez dire une chose, qu'est-ce que ça serait ?» Et ils ont répondu « une chose ». Donc, je vois que l'humour vaseux de Jérôme Kainborg dans Upload et ailleurs se transmet très, très efficacement à l'audience et j'en suis très, très fier. Merci à vous tous. Merci d'avoir répondu, merci d'avoir participé. C'était hyper sympa de votre part. Je continuerai à regarder les données, j'en ressortirai s'il y en a qui sont qui ont de l'intérêt. Et on va continuer maintenant, après cette parenthèse d'affaires internes, avec la suite des informations, les news et les rumeurs, avec d'abord, pour information, les reviews des Surface Book et des Nexus sont arrivés, sont sortis, et la presse est assez unanime. Le Surface Book est très très bon. Peut-être un petit peu cher, mais il est excellent. Et les Nexus 5X et les Nexus 6P sont eux aussi excellents. Donc ce sont des vrais flagships pour Android. Et c'est là qu'on comprend un peu la raison pour laquelle ils sont un peu plus chers que les versions Nexus précédentes. C'est que du coup, Android s'est dit, on va faire des appareils d'excellente facture, des choix faciles et pas juste du bon milieu de gamme. Là, c'est du haut de gamme, pas trop cher. Donc les reviews sont très très bonnes. Toi, tu utilises quoi comme téléphone, Jérôme ?
Alors moi, je suis un cas vraiment particulier. J'utilise un téléphone sur Firefox OS.
Ouais, donc toujours avant, le libre auquel t'es attaché, quoi.
Oui, c'est ça. En fait, j'avais pas de smartphone avant. C'est mon premier smartphone, donc j'ai un usage assez particulier. Par contre, en tant que auditeur du Rendez-vous Tech depuis toujours, je suis l'actualité tech. Je vois les différentes sorties des iPhones, des Nexus, etc. Mais j'ai fait le choix d'avoir une alternative.
Donc ça, c'est vraiment le cas particulier. Est-ce que t'es content de ton Firefox OS ? Tiens, est-ce que tu peux nous en faire une mini review en deux minutes, ce qui te permet de faire, de pas faire, les avantages, les inconvénients ?
Alors, je dirais, si on est un iPhone addict ou un Android addict, on oublie. si on est un primo-accédant, on peut prendre ce type de téléphone. Techniquement, en fait, c'est tout est web. Donc, en fait, ils ont pris une approche différente. Donc Mozilla, ils sont dit, de même façon qu'on a révolutionné l'Internet du desktop, on va essayer de révolutionner le monde du smartphone. Donc parce que à l'heure actuelle,
en fait, il y a pas d'app, quoi. Toutes les apps sont des sites web prévus pour être des apps, mais c'est quand même des sites web.
Oui, c'est ça, en fait, c'est les technologies du web. Après, ça peut être des applications avec tout ce qui est HTML5, on peut avoir des applications assez complexes. Et
Ouais.
donc, ça peut être soit elles tournent sur le téléphone et comment dire en mode connecté, c'est-à-dire que ça nécessite d'avoir une connexion Internet parce que ça fait appel à des services comment dire sur le web, soit elles tournent en comment dire en mode déconnecté et toutes les données sont comment dire en local sur le téléphone. L'idée, c'est que c'est comme si on avait un navigateur en fait en plein écran. Tout ce qui apparaît à l'écran, c'est ça tourne au-dessus d'un navigateur. Et donc, si on fait une application pour Firefox, elle va tourner sur n'importe quel smartphone, parce que sur Chrome, comme dire sur Android, on a Chrome, sur un iPhone, on a Safari. Et donc, on pourrait imaginer d'installer cette application et de retrouver la même application sur les différents smartphones. Donc, c'est vraiment une autre approche. Comme c'est du web, c'est des fichiers texte, donc c'est beaucoup plus léger aussi en termes d'app. C'est-à-dire que c'est au maximum quelques mégas et le plus lourd, ça va être éventuellement les images pour l'aspect design. Donc c'est une autre approche en fait. Pour l'instant, Firefox OS a fêté un peu plus de ses 2 ans. Il y a la version 2.5 qui arrive qui va sortir ce mois-ci avec tout un aspect customisation. Donc là, c'est un côté, ils appellent ça un hacker place où c'est on va pouvoir redesigner, comment dire, toutes les applis qui apparaissent à l'écran. Par exemple, si la partie numérotation ou la gestion des contacts, ça nous plaît pas en termes d'interface. Parce que et on
Il va y
est
avoir des
web
skins, quoi,
designer,
en quelque
ouais,
sorte.
on va pouvoir skinner. C'est vraiment l'idée, c'est la bidouillabilité, le côté hacking. Donc c'est
Mais alors, ouais, je vais te poser une question très, très précise. Est-ce qu'il y a des apps comme Twitter, Facebook, tu vois, des trucs que les gens pourraient vouloir utiliser au quotidien? Je sais pas, Skype, Snapchat, etc.
Alors, Twitter, Facebook, comme ils ont des sites internet, ça existe. En
Bien
fait, c'est
sûr.
tout ce qui existe en version mobile. Donc, forcément, par conséquence, existe sur Firefox OS. Après, il y a un écosystème qui se crée petit à petit, mais c'est toujours un peu l'œuf et la poule. C'est qu'il n'y a pas suffisamment d'utilisateurs pour qu'il y ait des sites qui viennent créer, comment dire, leur application native par défaut. Donc s'il n'y a pas d'application, il y a peu d'utilisateurs. Après, il y a la problématique aussi des téléphones qu'on peut trouver. En France, à l'heure actuelle, là, il n'y a plus de téléphones. Les portages,
Ah
il y
oui,
a.
d'accord. J'avais pas réalisé qu'il y avait plus de
En
Firefox
plus,
OS en
il y en a eu un
France.
qui a été vendu. En fait, c'était un téléphone bas de gamme de la du téléphone. Donc c'était un comment s'appelle un fabricant chinois qui s'appelle ZTE. Il n'y a pas eu assez de ventes ou on sait pas trop comment dire si c'est donc là le téléphone n'est plus commercialisé. Mozilla, eux, font des portages, c'est sur le Sony Z3C. Donc c'est devenu le téléphone de référence, qui est un smartphone un peu plus haut de gamme. Parce que bah, le téléphone moi que j'utilise, c'est un ZTE, il coûtait 89 €. Donc c'est
Ah
l'équivalent
oui,
d'un téléphone
d'accord,
Android
effectivement.
à 89 €. Ça, il y a eu quelques téléphones qui ont été lancés en Inde et dans d'autres pays émergents en Afrique aussi, où c'était, comme dire en Inde, c'était 35 $ le téléphone. Mais c'est vraiment,
Ouais,
pour
c'est
donner une idée
peut-être.
de configuration, c'est 256 mégas de RAM.
Ah oui, d'accord, bon,
À
c'est vraiment.
comparer aux 4 ou 8 gigas et aux quad-core avec les derniers Snapdragon sur un Nexus 5. Donc c'est
Ouais, donc
vraiment une
on
autre
parle
approche.
vraiment d'une autre approche, effectivement, ça conviendrait peut-être pas à tout le monde, mais si jamais vous êtes intéressé par une solution un petit peu moins Big Brother-esque, peut-être aller regarder du côté de Firefox OS. Et
Tout à fait.
si vous êtes intéressé par Big Brother lui-même, eh ben vous pouvez aller du côté de l'Apple TV, que j'ai reçu la mienne, en fait, c'est ma première Apple TV, je l'ai reçue il y a quelques jours. Je vais juste dire 2 mots, ça fonctionne pas mal, les applications sont bien foutues. Au niveau de la 3D pour les jeux, eh ben autant sur un petit écran d'iPhone ou d'iPad, ça passe, autant sur la grande télé. C'est pas super beau, hein. C'est quand même, allez, on va dire niveau PlayStation 2 peut-être, pour donner un équivalent, un petit peu mieux entre PlayStation 2, PlayStation 3, même pas, clairement pas PlayStation 3, plus proche de la PlayStation 2. Donc c'est un petit peu moche quand même. Et ensuite, les fonctionnalités Siri, ça marche. Je suis un petit peu frustré parce qu'on peut pas utiliser Siri dans une autre langue que la langue du système. Ça, c'est un petit peu pénible, contrairement à ce qui se passe sur l'iPhone. Mais par contre, il y a un truc qui est complètement débile, c'est qu'on peut pas utiliser Siri pour dicter dans les champs de recherche. Alors par exemple, si je lance YouTube, je veux faire une recherche sur YouTube, et ben je dois taper avec le clavier pourri et la télécommande là sur laquelle je vais passer 2 heures à taper les lettres, alors que et je peux pas dicter simplement ma recherche. Donc bon, j'espère que ça va changer. C'est clairement une version 1 de ce reboot de l'Apple TV. C'est pas mal, c'est une bonne set-top box. Les apps sont intéressantes, mais je pense que si vous voulez un bon produit et que vous voulez pas spécifiquement ce type de produit, il y en a peut-être des meilleurs ailleurs, ou alors attendez une version suivante. C'est pas un produit ultra convaincant. Moi, j'en suis content parce qu'il fait ce que je lui demande, mais c'est pas forcément le truc. Ou en tout cas, peut-être que les apps vont arriver et vont développer les fonctionnalités. Mais là, ça vient de sortir évidemment. Donc, je dirais au moins, c'est pas une recommandation d'achat immédiat. Au moins, attendez quelques mois, quoi.
Et par rapport à un Chromecast, en fait, tu conseillerais plus d'attendre, par exemple, l'Apple TV nouvelle version V2, ou de prendre un Chromecast, ou...
Bah, c'est très compliqué parce que le Chromecast est un appareil à $35 ou, enfin, 35 euros, 40 euros. Donc, c'est presque inconsommable à ce niveau-là. Et les fonctionnalités sont très différentes puisqu'on va envoyer des images ou des vidéos depuis notre téléphone ou notre tablette. Donc, en lui-même, il fait pas grand-chose, tu vois. On a dans l'Apple TV, on a des apps, on a des jeux. Je disais, les jeux en 3D sont très moches, mais on a des jeux qui, eux, sont très très beaux. On a des jeux comme Rayman qui est super joli. On en a d'autres, hein, qui ont été portés, qui fonctionnent très très bien. Là, je parlais d'un jeu de course en 3D qui, c'était Asphalt 8, si je ne m'abuse. et ça, c'était moche, mais il y a plein de jeux qui sont super beaux aussi, à partir du moment où ils ne demandent pas trop de ressources. Donc tu vois, on a des possibilités et cet écosystème d'app sur l'Apple TV qui va être peut-être plus intéressante, mais par contre c'est minimum 200 euros, donc c'est pas du tout le même achat, quoi.
Ouais, c'est presque un intermédiaire entre le smartphone et la console de jeu. Enfin, ça se pose un peu entre les deux. C'est, on est casual gamer et donc on a l'habitude de jouer sur smartphone, mais on aimerait bien aussi jouer sur sa télé, mais on va pas forcément investir dans une PlayStation ou une Xbox, et du coup c'est on penchera plutôt vers ça.
Bon, je dirais même que si quelqu'un veut une sorte d'appareil pour regarder YouTube, etc., sur la télé, mais vous êtes principalement un joueur de jeux vidéo, une console va vous faire ça aussi. Là, c'est même plus, c'est plutôt pour les gens qui veulent un appareil qui va regrouper toutes leurs apps, genre YouTube, Dailymotion, Canal Play Infinity, j'imagine qu'il va y avoir OCS aussi, sur une petite box discrète et relativement jolie. Vous allez pouvoir avoir l'Apple TV et faire un petit peu de jeux en plus, mais c'est accessoire. Donc voilà, moi c'est plus comme ça que je le considère. Et on parlait d'Android justement. Il semblerait que Google soit en train de faire une fusion entre Android et Chrome OS. On en parlait au moment où ils ont annoncé le Pixel C qui fait tourner Android et pas Chrome OS. Donc là, ça se confirme un petit peu. Ils disent qu'ils vont continuer à développer Chrome OS pour le moment, peut-être le mettre en open source plus tard. En même temps, on sait ce qui se passe des projets pour les projets Google quand ils vont en open source, comme Wave. mais bon, donc cette fusion entre Chrome OS qui serait un mode d'Android semble se confirmer. Ça serait l'idée de les combiner d'ici 2017. Là, on est dans les parties news et rumeurs, donc tu m'interromps si tu as des choses à dire, hein, bien sûr.
Oui, en fait, c'est presque... On arrive de plus en plus dans un mode où, comme Windows 10, où c'est, j'ai mon téléphone sur Windows 10, ma Xbox et mon PC, et le tout, en fait, c'est un écosystème complet. Là, Google voudrait faire la même chose avec son Chrome OS et Android, quelque part.
Ouais, un petit peu. L'idée, ça serait d'avoir effectivement Android qui fonctionne bien partout et d'avoir en fait un mode Chrome OS sur Android, plus ou moins équivalent à Chrome OS pour les cas où c'est plus cohérent d'avoir ce type de configuration. Donc, ça serait effectivement un OS qui convient à différents types d'utilisation.
Ouais, ça peut être intéressant pour l'avenir, en fait, en termes d'évolution, c'est de voir le côté qu'est-ce que ça peut apporter, parce que c'est... il y a de la concurrence par rapport à Windows et chez Ubuntu aussi, ils sont aussi dans cet esprit où on essaye de faire une version qui tourne sur le desktop et qui est aussi compatible avec la version téléphone. Apple va peut-être aussi dans cette direction, donc ça peut être intéressant en termes de voir ce qui se fait chez la concurrence pour prendre les bonnes idées.
Ouais, c'est sûr qu'il y a une convergence à ce niveau-là, c'est certain. Donc, c'est pas si surprenant que Google s'y mette aussi.
Tout à fait.
Apple a confirmé qu'il leur était impossible d'accéder aux données d'un iPhone sous iOS 8 ou iOS 9. Donc, la justice a demandé d'accéder à certaines données de criminels ou de criminels présumés, et Apple a dit, désolé, on ne peut pas. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose pour la vie privée. On sait aussi que les nouveaux téléphones Android, dans certaines conditions de puissance, auront le chiffrement de leurs données complètes activées par défaut. Mais malheureusement, tout ça risque de ne pas être très important puisqu'il semblerait que la NSA ait réussi à craquer le chiffrement. Alors là, je connais pas exactement le protocole, mais c'est chiffrement 1024 bits Diffie-Hellman. Donc, il pourrait décrypter, déchiffrer les connexions à grande échelle. Donc, peut-être que la NSA a déjà tout craqué.
Oui, c'est vrai que là, en fait, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que le chiffrement ne fait que retarder le moment où la donnée sera accessible. C'est un peu, même on aura beau avoir le coffre-fort le plus sécurisé au monde, c'est juste une question de temps. C'est souvent ce qu'on explique, c'est que, là, on parle de la NSA qui espionne tout le monde, etc. Il y a vu le fait qu'ils collectaient énormément de données chiffrées. Ils ne
Pour
pouvaient pas y
pouvoir les
accéder
déchiffrer
sur le
plus
moment,
tard, ouais.
mais pour pouvoir les déchiffrer plus tard. Et donc c'est un peu comme bon, c'est un exemple caricatural, mais c'est un peu si on veut préparer quelque chose de il faut que le moment où quand la donnée est accessible, le crime par exemple ait été commis, mais on soit aux Bahamas bien caché, etc. Parce que si c'est un peu ça, c'est je sais pas, c'est par exemple ou quelque chose de plus positif, c'est j'ai une donnée médicale assez personnelle sur mon état de santé, je la partage avec mon médecin. Le jour où mon assurance va se percevoir que je mange pas mes 5 fruits et légumes par jour, etc. Tant pis, je suis déjà décédé, ça n'a plus de valeur parce que c'est.
Non, c'est intéressant de voir les choses comme ça, effectivement.
Ouais, c'est ça, c'est important de
Ça
comprendre, c'est que
retarde, ça
le
ne...
chiffrement retarde le moment où la donnée est accessible. Et là, après, typiquement pour les téléphones, moi je trouve que c'est une bonne chose. Parce que le souci, c'est si son souci c'est la NSA, on n'a pas de téléphone. C'est aussi simple que ça. Par
Ouais, c'est
contre,
vrai.
c'est on est, comment dire, on a son téléphone dans sa poche, comment dire, on le perd dans les transports en commun, on n'a pas forcément envie que quelqu'un ait accès aux données. Donc on va dire oui, il y a le code de verrouillage, mais avec tous les systèmes actuels où on peut outrepasser ce code de verrouillage ou comment dire là, l'intérêt du chiffrement natif, c'est que ça sera très compliqué d'accéder aux données et ça vaut pas le coup. C'est on formate entre guillemets, on installe une autre ROM dessus, par exemple dans le cadre d'un téléphone Android, on va remettre un cyanogène, on formate tout, on a le côté matériel, on est content, on a volé le téléphone, on a le téléphone, mais la
Ouais,
personne qui a
c'est-à-dire que
perdu son téléphone.
si on chiffre comme ça, la NSA, de toute façon, ils y arriveraient. Mais par contre, à moins que vous soyez la NSA, vous serez, enfin, à moins que la personne qui l'a volé soit la NSA, vous serez protégé. Alors que s'il n'y a pas ce type de chiffrement, c'est pas aussi évident que vous soyez protégé.
Oui, ça, je pense que personnellement, j'estime que c'est une bonne chose parce qu'on transpose ce qu'on parlait de la dernière fois dans le côté hygiène numérique sur le smartphone, parce que le smartphone contient, énormément de
Plein
données
d'informations,
personnelles,
quoi.
et donc le fait qu'elle ne soit pas accessible par le commun des mortels est une bonne chose.
Ouais.
Donc pour moi, je valide cette initiative, ça va dans le bon sens.
Facebook a déclaré qu'ils allaient, pour les employés qui le choisissaient, ralentir leur Internet tous les mardis pendant 1 heure. Ils auront le choix, ils verront est-ce que vous voulez un Internet ralenti pendant 1 heure. Et là, vous dites, mais pourquoi est-ce qu'ils feraient ça? Eh bien, figurez-vous que c'est pour comprendre comment les gens dans les marchés émergents utilisent Internet. Et je trouve ça hyper malin. Alors, ça sera en l'occurrence vraiment ralenti, ça sera en 2G, donc en Edge. Rendez-vous compte, c'est comme ça que la plupart des gens utilisent Internet visiblement en Inde, enfin en Inde et dans ces pays-là. Donc là, les employés pourront se rendre compte de ce que ça donne vraiment. J'imagine que certains le feront une ou deux fois. C'est un bon moyen d'ouvrir les yeux sur ce genre de choses. Google amène les podcasts dans leur app Play Music. ils sont en train de d'inclure les podcasts anglophones pour le moment. J'espère que les francophones vont arriver bientôt, mais c'est une bonne nouvelle pour nous parce que ça, encore une fois, ça légitimise le média podcast et ça offre une alternative finalement à Apple qui depuis longtemps a un petit peu le monopole sur le catalogue de podcasts avec iTunes. J'espère que Google aura un beau catalogue de podcasts aussi sur Google Play Music, quoi.
Et du coup, ça sera disponible via YouTube Red aussi.
Ça, je sais pas parce que, enfin oui, via YouTube Red, effectivement, je sais pas s'ils ont pas de contrat avec les podcasteurs, donc les podcasteurs seront pas payés, tu vois.
Oui, mais on pourrait imaginer que ça peut être également une source de revenus.
Peut-être qu'ils le font à terme, pourquoi pas, oui. Peut-être qu'ils diront, si vous enregistrez avec nous, quand des gens écoutent vos émissions par notre système, on vous reverse une partie de leur abonnement. Ça serait pas mal, ouais, effectivement. J'y avais même pas pensé, tu vois.
Oui, bref.
L'IPO, l'entrée en bourse de Deezer, a été décalée indéfiniment. Parce que les conditions ne sont pas propices à cette entrée en bourse, malheureusement. On en parlait avec un cocorico la dernière fois, et le cocorico se fait un petit peu moins audible. Nintendo a annoncé qu'ils allaient livrer leur premier jeu en mars, leur premier jeu smartphone en mars 2016, et à la grande déception des joueurs que certains d'entre nous sommes, il s'agira d'une app de chat avec des Mi, ces petits personnages virtuels qu'ils ont créés pour leur console. Donc ça sera uniquement du chat avec des Mi et pas un entre guillemets vrai jeu. À mon sens, c'est pour tester leur infrastructure et leur nouveau système de compte et de réseau. Leur nouveau réseau. C'est surtout pour ça qu'ils le font, je pense. Les vrais jeux arriveront après, donc je suis pas trop déçu.
On aura un Mario, un Zelda.
J'espère, des Mario ou des Zelda adaptés au smartphone, bien sûr.
Oui.
Twitch a lancé Twitch Creative. Twitch, encore, c'est ce système, ce site qui stream des jeux vidéo. Je l'utilise depuis quelques temps pour streamer Overwatch de temps en temps. Je fais des streams le matin en français. Ils stream des jeux vidéo. Ils ont grandi énormément. Ils se sont fait racheter par Amazon et ils sont en train de créer, ils ont lancé Twitch Creative qui permet aux gens de streamer non pas des jeux vidéo, mais des contenus créatifs comme le fait de faire de la peinture, de faire de la couture, etc. Parce que il y avait plein d'utilisateurs de Twitch, de streamers, qui se disaient, maintenant j'aimerais bien streamer autre chose que du jeu vidéo et garder ma communauté. Et ils se sont rendus compte que ce segment grandissait très très vite, 40% par an au lieu des 20% par an du streaming de jeux vidéo. Et donc ils ont créé une section spécifique pour eux. C'est marrant parce que Twitch était un spin-off de Justin.tv qui était un site de streaming généralisé. Et donc là, ils ont streamé, ils ont fait un spin-off avec Twitch qui faisait que du jeu vidéo, et Justin.tv, s'est détaché et n'existe plus vraiment. Et là, ils reviennent à du streaming un peu plus généralisé. C'est marrant, quoi.
Ouais, c'est vrai, et puis bientôt on aura peut-être des Twitchers comme on a des Youtubers, où la différence ça sera YouTube c'est des vidéos montées, bien préparées, etc. Et le Twitcher ça sera un côté très naturel, spontané, on peut pas, comment dire, en live.
Ouais, c'est un petit peu l'identité de chaque site, même si on a vu que YouTube poussait aussi le live, en particulier avec YouTube Gaming, et Twitch a annoncé qu'ils allaient bientôt autoriser l'utilisation de vidéos pré-produites aussi. Donc les deux sont un petit peu en train de se rejoindre, mais c'est vrai que en général, les Twitchers sont plus des streamers, bien sûr, et les YouTubers font des vidéos pré-montées. C'est deux identités et deux communautés différentes, quoi.
Objectivement, ça fait un côté concurrence, et ça peut apporter des idées. Il y a des gens qui vont peut-être détourner l'utilisation, qui vont avoir une utilisation un peu différente, et il peut en sortir des bonnes choses.
C'est sûr, et puis c'est toujours bien d'avoir de la concurrence, comme tu le disais. YouTube est beaucoup trop dominant sur tous les segments de la vidéo en ligne. Il est très important d'avoir de la concurrence, que ça soit chez Twitch, chez Dailymotion, même si c'est très franco-français, Dailymotion, mais...
Ouais, peut-être qu'un jour on en verra Facebook racheter Twitch.
Facebook, je sais pas, parce que maintenant Twitch appartient à Amazon, donc ils ont intérêt d'aligner beaucoup d'argent. Ouais. Facebook, ils ont décidé de développer leur propre écosystème de vidéos. Donc même eux s'y mettent, mais eux ils s'y mettent eux-mêmes.
D'accord.
La Cour de justice de l'Union européenne a déclaré que les bitcoins étaient une monnaie. contrairement à certains organismes aux États-Unis, même si c'est pas définitif, ils ont dit que c'était un bien et donc il fallait payer des taxes dessus. En France, en Europe, ils ont déclaré que c'était une monnaie et donc il n'y a pas de taxes dessus. C'est comme si on passait d'une monnaie à une autre. Donc voilà, pour information, les bitcoins, c'est peut-être la voie de la richesse pour certains d'entre vous. Et les eurodéputés ont voté une résolution qui, alors, comment dire ça, qui appelle les États membres à accueillir Edward Snowden. Ça veut dire que c'est pas un truc contraignant. Donc j'ai vu beaucoup de tweets disant ah vive l'Europe, on a sauvé Edward Snowden machin. En fait non, c'est juste que l'Union européenne, les députés ont, et c'est un signal qui est très fort, hein, mais c'est une sorte de recommandation en fait pour dire les gars vous déconnez, Snowden il faudrait le sauver parce qu'aujourd'hui il est en Russie. Rendez-vous compte, c'est la Russie qui sauve le protecteur de liberté. Bon, j'offre qu'une vision spécifique de la chose, mais c'est quand même un petit peu décevant que l'Europe n'ait pas été plus volontaire dans la protection Snowden, même si on sait bien qu'il y a des considérations politiques beaucoup plus vastes à prendre en compte là-dedans.
Juste, tu avais parlé de l'arrivée de Snowden sur Twitter ou pas ? Je me rappelle plus.
Oui, on l'avait évoqué. Il avait ouvert son compte. Il tweet pas beaucoup. Hein.
Oui, il tweet pas beaucoup. Ouais. Toujours un seul abonnement, là, je regardais. Et 1,58 million d'abonnés. Donc ça a stagné. C'est vrai qu'on a vu le nombre d'abonnés grandir très vite les premières heures, et puis là, bah, c'est stable.
Oui, bon, c'est normal en même temps. Hein. C'est généralement comme ça que ça se passe. Mais le seul abonnement, c'est marrant de le signaler, il suit la NSA. Donc voilà, c'est la seule personne qu'il suit lui-même. C'est drôle. On va passer à la partie Reddit. Comme je le disais, on a relancé dans l'idée de faire vivre un petit peu la communauté. On a relancé le Reddit du Rendez-vous Tech. Vous vous souvenez, Reddit, c'est ce site où on peut soumettre des liens et voter pour ou contre les liens pour qu'ils gagnent ou perdent en visibilité. Et ça permet d'avoir des sujets, des histoires qu'on n'aurait pas forcément traité, ou ça permet de mettre en exergue certains sujets que j'aurais peut-être pas considéré pour l'émission. Et il y a déjà une communauté assez saine qui se réunit autour de ça, c'est reddit.com/r/rdvtech. Les utilisateurs de Reddit connaîtront ça. Et merci beaucoup à Outdoc qui gère tout ça, qui et l'administrateur du Reddit et qui a créé un petit badge spécial pour les patriotes, hashtag patriotes. Donc merci à lui, c'est très sympa d'avoir fait tout ça. Première histoire, c'est Mika, qui est le grand pourfendeur de Microsoft devant l'éternel, qui nous a posté quelques sujets sur la mise à jour forcée de Windows 7 ou 8 à Windows 10, qui a été détectée pendant quelques jours. En fait, il s'est trouvé qu'il s'agissait d'une erreur de Microsoft, mais ils ont confirmé qu'ils allaient proposer bientôt Windows 7 et 8 à tout le monde, qu'il ne fallait plus l'avoir réservé, pardon, Windows 10 à tous les utilisateurs de Windows 7 et 8, qu'on n'avait plus besoin de le réserver, et qu'ils allaient le mettre dans les mises à jour recommandées l'année prochaine. Et les mises à jour recommandées, celle-là ne s'installera pas toute seule, contrairement aux mises à jour recommandées habituelles. Et de toute façon, les gens auront 30 jours pour revenir en arrière, donc c'est relativement sécurisé. Mais il y a quand même une question que ça pose, c'est que d'une part, on veut que tout le monde ait la version la plus à jour, la plus sécurisée d'un OS, mais en même temps, est-ce que c'est pas un petit peu de la vente forcée finalement de la part de Microsoft, sans vraiment les obliger, on l'a vu, on pourra refuser, mais de mettre les autres utilisateurs sur Windows 10. Toi, en tant que défenseur du libre, qui n'est pas forcément le plus grand fan, j'imagine, de Microsoft, qu'est-ce que tu penses de cette dualité entre le besoin d'avoir l'OS le plus à jour possible pour une question de sécurité et le fait de forcer les gens ?
Alors, c'est une problématique un peu compliquée, mais j'essaie d'y répondre rapidement. Mettre à jour l'OS de façon forcée est peut-être une bonne chose, parce que c'est, comme dire, ça force à utiliser la dernière version à jour. Maintenant, on voit que Internet Explorer est mis aussi régulièrement à jour pour les gens qui n'ont pas connaissance d'un autre navigateur, et c'est une bonne chose. Après, on arrive dans un monde où c'est on décide pour vous, faites-nous confiance. Et là, ça soulève la problématique de quelle confiance on va accorder à Microsoft, de la même manière qu'on va accorder à Apple, etc. Et moi, qui suis partisan d'une éducation à comment fonctionne un ordinateur, comment ce qu'il y a derrière, etc., je suis pas pro Windows 10, hors comment dire, considération sur la vie privée, avec toutes les données qui sont dans le cloud, Microsoft, etc., voir toutes les problématiques qu'il y a eu avec le mot de passe du Wi-Fi qui est partagé avec nos amis et tout ça. Donc
Ouais.
c'est je comment dire?
Bah, donc il n'y a pas vraiment de réponse claire, quoi, en fait.
Ouais, c'est ça, c'est que je comprends pourquoi Microsoft fait ça, mais en tant qu'utilisateur aguerri, je ne l'accepte pas.
D'accord. Bah, moi, je dirais, je pense que malheureusement, mon approche de la chose, je suis un petit peu plus pragmatique. Je dirais que malheureusement, dans la réalité du quotidien, les gens ne mettent pas à jour leurs trucs si on les force pas. Et c'est pour ça qu'il faut que quel que soit le système finalement, que ça soit bah, des systèmes de téléphone, enfin iOS, Android, Windows sur téléphone, ou même des systèmes sur votre ordinateur. Même Ubuntu, je dirais, si on avait une adoption plus large de gens qui savent pas forcément qui connaissent pas tous ces problèmes, c'est important d'avoir la dernière version et c'est important pour les navigateurs notamment d'avoir les dernières versions aussi. Donc bon, moi je suis
Bah, par
plutôt.
exemple, Firefox, ouais, Firefox, donc le navigateur, lui, se met à jour tout seul. C'est par défaut, quand il se met à jour tout seul, il va le signaler. Et
Mais
après,
alors
attention, il y a une mise à
pourquoi
jour au
est-ce que ça
démarrer.
te convient pour Firefox OS et pas pour Windows?
Non, pas pour Firefox OS, pour Firefox,
Pardon, je veux
le
dire pour
navigateur.
Firefox, oui, pour le navigateur.
Parce que j'ai plus confiance en Firefox qu'en Microsoft. Bon, après, c'est...
D'accord, oui, effectivement, tout
Il y a le
ça
côté open source,
s'explique.
fait partie de la communauté Mozilla, je connais des gens qui développent Firefox. Peut-être que si je connaissais des gens qui travaillent chez Microsoft, j'aurais mon regard changé. Donc
Ah, mais
si on...
c'est peut-être ça la solution, en fait, effectivement.
Ouais, donc voilà, je lance un appel.
Ouais.
S'il y a des gens qui travaillent chez Microsoft, on va prendre un café ou boire une bière ensemble et on va discuter.
Très bien. Outdoc, justement, lui, nous a mis ce lien vers une décision du gouvernement de regarder très sérieusement la possibilité d'implémenter des logiciels open source, des logiciels libres, dans le secteur public, suite au débat qu'il y a eu à propos de la République numérique, le débat public, vous savez, avec le site qui permettait à n'importe qui de commenter. Eh bien, c'était l'un des commentaires les plus prévalents. Et ça a donné lieu à cette considération. Visiblement, ils y pensent vraiment. Donc, on verra ce que ça donne. Xavier CRM, c'est ah oui, j'ai oublié de dire, Mika et Outdoc sont des patriotes, bien sûr. Xavier CRM, lui, nous dit. Qu'il y a nous indique le sujet sur Let's Encrypt, qui est un organisme de délivrance de certificats SSL pour encoder les sites web, qui est ouvert et libre et qui va désormais être reconnu par tous les navigateurs. Ce que ça veut dire, c'est qu'il sera beaucoup plus facile et beaucoup plus possible d'avoir du HTTPS partout, donc des connexions chiffrées vers les sites web sur beaucoup plus de sites web. Et ça, pour toi, c'est une super bonne nouvelle, non, j'imagine?
Ah oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que bah, on avait abordé ce souci de l'HTTPS, le fameux cadenas en fait, dans son navigateur, pour que les mots de passe ne circulent pas, ce qu'on avait appelé en clair, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas visibles de n'importe qui. C'est-à-dire que quand on veut se connecter à un site, s'il y a le cadenas, le mot de passe est chiffré, donc sécurisé. S'il n'y a pas le cadenas, le mot de passe circule en clair. Et si on est au Wi-Fi du McDo, par exemple, quelqu'un qui est à côté de nous, qui a le logiciel qui va bien, il pourra voir le mot de passe. Donc ça, c'est ça que ça apporte le HTTPS. Le souci, c'est que pour mettre le cadenas en place sur son site internet, ça reste encore des bidouilles de geek, c'est pas simple, c'est faut aller faire des fichiers de configuration, etc. Et ce qu'apporte Let's Encrypt, c'est on donne le nom de son site internet et ça va générer automatiquement la configuration qui va bien, la plus sécurisée. Et ça, de tous les échos que j'ai pu voir dans la communauté hacker, c'est une très bonne initiative. C'est qu'ils ont fait les choses bien, ils sont entourés de bonnes personnes et techniquement, le certificat, est de qualité. C'est pas, comme dire, de la poudre aux yeux. C'est pas, oui, on fait ça et ça marche. En termes de sécurité, c'est vraiment fiable. Donc, j'incite toute personne ayant un site internet, donc avec leur propre serveur et qui veulent mettre en place un peu plus de sécurité, à regarder du côté de Let's Encrypt.
Free French, qui est lui aussi patriote, nous fait remarquer que il faudra acheter un câble USB-C de USB-C vers câble USB type A pour PC avec les Nexus 5X et 6P. Voilà, ils n'ont pas inclus les câbles qu'il fallait. Ils ont inclus les câbles USB-C vers USB-C. Alors évidemment, si vous avez un ordinateur qui fait du USB-C, et ben voilà, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Mais comme c'est pas encore le cas de tout le monde, beaucoup d'entre vous devront sans doute acheter un câble en plus. J'ai trouvé ça mignon. PJ, qui est lui aussi un patriote, c'est lui qui nous avait transmis l'histoire sur l'adoption de la résolution du Parlement européen pour protéger Snowden. Je voulais lui rendre hommage puisqu'il l'a mentionné là-bas aussi. Et enfin, Xavier CRM parle à tous les chômeurs de France pour leur dire qu'ils ont désormais accès gratuitement, en partenariat avec le Pôle emploi, avec le gouvernement, au compte premium de Open Classrooms, qui est un MOOC, une plateforme de MOOC. Qui est hyper développé, qui est une plateforme française. Si vous avez du temps parce que vous êtes chômeur et que vous voulez aller développer des compétences dans un environnement qui est fait pour ça, eh ben vous pouvez aller voir du côté de openclassrooms.com et vous pourrez sans doute trouver des trucs intéressants. C'est hyper bien foutu et je vous recommande d'aller y jeter un coup d'œil. Merci à Xavier CRM pour son message, enfin pour son vote sur Reddit.
Oui, je ne peux qu'encourager les gens à aller sur Open Classroom et à se former, parce qu'on vit dans un monde de plus en plus numérique, et c'est vrai qu'il y a énormément de tutoriaux de bonne qualité pour justement apprendre, pour éventuellement envisager une reconversion, ou si, comment dire, parce qu'on parle beaucoup de il faut apprendre le coding, on va dire. On voit même quand les ministres s'y mettent en disant on va apprendre le coding ou la programmation aux enfants, et donc là, ça permet de voir vraiment ce qu'il y a derrière ces mots, c'est qu'on voit que c'est pas forcément quelque chose de simple. On peut soit attraper le virus de l'informatique et se dire, ah bah, devenir développeur et comment dire, et vraiment accrocher avec les langages de programmation, ou au contraire, voir ce qu'il en est et comprendre, ah bah non, c'est pas si simple. Là, au moins, on peut mettre les mains dans le cambouis et se faire sa propre idée. Et c'est vrai que c'est une très bonne initiative, que ce soit accessible aux chômeurs, parce que justement, si on ne trouve pas de travail dans sa branche, peut-être que ça peut être intéressant de faire une reconversion ou autre. Et il y a beaucoup d'initiatives qui existent comme ça. Par exemple, bon, là, ça fait longtemps qu'on parle, mais j'ai très rapidement évoqué le cas de Simplon, qui est en fait une école de la seconde chance, entre guillemets, où ça prend des gens et ça leur apprend en fait à coder, à développer. Et l'idée, c'est qu'en sortant de cette école, ils vont créer, comment dire, leur start-up, apporter un nouveau service. Et ce qui manquait à ces personnes-là, c'était juste le côté technique. Parce que ils ont des envies, ils ont des idées sur comment faire des choses. Et donc là, on leur met le pied à l'étrier, on les épaule pour pouvoir se lancer. Et donc, l'initiative d'Open Classroom est une autre façon de faire les choses. Si on se sent de passer du temps, d'apprendre par soi-même, on peut faire ça. Donc moi, en tant qu'autodidacte, je ne peux que l'encourager.
Je précise simplement qu'Open Classroom ne fait pas que de la programmation. Ils en ont énormément, mais c'est pas que ça. Si allez y jeter un coup d'œil, franchement, surtout si vous êtes chômeur, franchement, sincèrement, arrêtez de jouer à la PlayStation et de regarder mes vidéos sur Overwatch sur YouTube, bougez-vous un petit peu les fesses et allez voir Open Classroom, hein? Bon, je plaisante, hein, bien sûr. Écoutez, ça va être tout pour cet épisode du Rendez-vous Tech. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Dis-moi, Jérôme, est-ce que tu peux nous rappeler où on peut aller découvrir tout ce que tu peux proposer sur Internet?
Alors, le point central où on peut me trouver, c'est le blog de Genma, donc G-E-N-M-A, et l'adresse c'est genma.free.fr, sur Twitter, @Genma, sur Framasphere et Diaspora, qui sont des réseaux alternatifs à Facebook, où on est entre nous, on parle Firefox OS, on refait le monde entre libristes, etc. Donc si vous êtes intéressé par une alternative à Facebook, regardez Framasphere, qui est un service fourni par Framasoft, vous cherchez Genma, et puis bah, vous me trouvez, hein. Et voilà. Mais sinon, bah pour les fidèles auditeurs, je pense que la majorité sont sur Twitter, donc @Genma, Genma.
Super, merci beaucoup Jérôme. Et
Bah merci à toi.
pour ma part, vous savez que je suis NotePatrick sur Twitter, NotePatrick sur Facebook, et que vous pouvez aussi retrouver les notes de l'émission sur frenchspin.fr, et que vous pouvez également venir commenter si on a dit des bêtises, si on a dit des trucs qui vous ont intéressé, n'hésitez pas à venir nous laisser votre avis. Comme je le disais, c'est frenchspin.fr. Vous retrouverez aussi d'autres émissions sur ce site. Et évidemment, si vous voulez soutenir cette émission et si vous voulez soutenir mon initiative et mes productions, patreon.com/rdvtech, vous le savez bien. Merci à vous tous, merci de nous avoir suivis, merci Jérôme d'avoir été là, et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode. Ciao à tous!
Oh, ciao à tous.